casse moins de produits, mais vin, on n'est pas du tout en train de faire. On a essayé plusieurs solutions, mais ça décide.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous continuez à utiliser des pesticides, voilà. Apporter les équipements appropriés de protection.
Oui, oui, avec tout ça, il y en a tout, il n'y a pas de problème, mais oui, pour ça, je n'ai pas encore la douleur.
Voilà. Qu'est-ce qui vous manque pour franchir le cap? Qu'est-ce qui vous manque pour franchir le cap?
Les moyens financiers. Et la volonté politique, c'est ce qu'on manque.
Donc, ce n'était pas au départ un problème d'information ou de sensibilisation. Vous êtes informé, vous êtes sensibilisé.
Je connais, je suis dans la partie, je suis né à Dodagne, je connais les risques des produits et tout. On a essayé les couleurs déjà depuis quelques années. On a essayé les premières couleurs, c'était dans les années 86, je crois. Et bon, on a essayé, mais c'est tout. Après, on a essayé là, il y a pas bien longtemps, il y a deux ans, la vapeur.
En fait, on est trois de la ville d'Arles.
Oui, peut-être. On est présentés conjointement un peu.
Pierre Cago et Paulette Allard, qui se lancera aussi, et moi-même, Bertrand Schaeffer. Donc, j'ai été embauché à la ville d'Arles il y a 5 mois exactement. Je suis le directeur des services propreté et espace vert. Donc, j'ai la charge du service espace vert, mais aussi des services chargés de la propreté, du nettoyement, la collecte des déchets, etc. Donc effectivement, j'ai appris un tas de choses ce matin. C'est très intéressant. Comme disait mon collègue, aujourd'hui à la ville d'Arles, on n'a pas encore franchi le pas. Je pense que c'est juste un pas franchi. La difficulté, c'est que, et là-dessus, je pense que ma collègue saura certainement mieux que moi vous expliquer le pourquoi, du comment, les raisons qui font qu'aujourd'hui on n'a pas franchi ce pas encore. Je pense que c'est de l'ordre du possible, mais il y a sans doute des questions financières, sans doute, oui, mais peut-être aussi des questions de volonté politique, de difficultés techniques aussi, certainement, parce que vous le savez tous, le territoire de la commune d'Arles est très très étendu. C'est la plus grande commune de France, hein, 75 km², c'est immense. On a un linéaire de voirie à entretenir qui est très important. Et donc, ça demanderait des moyens alternatifs, certainement très adaptés, et bien réfléchir à la chose avant de se lancer. Il y a le problème des espaces verts. Bon, le service espace vert, je pense, est en mesure aujourd'hui, à mon sens, hein, de ce que j'ai pu voir en quelques mois, de franchir ce pas sans trop de difficultés, mais la difficulté elle va être davantage portée sur le service du nettoyement qui a en charge le désherbage de toutes les voiries de la commune. Et ça, c'est une réelle difficulté, d'autant plus que nos voiries sont pas en très bon état et que par conséquent, on a énormément d'herbes devant les portes des maisons. Et je pense que la difficulté est plutôt là. L'entretien de la voirie, plus sur l'entretien de l'espace vert, après, on va en parler.
Vous êtes combien, pardon, combien d'agents globalement justement sur ce territoire qui est quand même immense?
Au total, à la ligne du 300, ouais, à peu près entre 1200 et 1300. Les services espace vert, ils doivent être entre 30 et 35. Et les services propreté, 120.
D'accord, merci.
Et tout confondu. Donc voilà. Moi, je suis là pour piocher de l'information et essayer de voir ce qui est possible pour faire, pour s'inscrire d'ailleurs dans le cadre de l'agenda 21 qui est piloté par ma collègue, à qui je cède la parole, si
peut-être elle veut faire la transition. Ça permet de faire la transition, exactement.
Donc moi je suis Colette Arabernier, donc effectivement je suis responsable de la politique de développement durable de la ville d'Arles. Donc bien évidemment la question des phytosanitaires donc civilisés très tôt, parce qu'on a eu des ateliers dans le cadre de l'agenda 21 et des ateliers qui ont été menés avec en intrant, c'est-à-dire avec des agents municipaux, hein, sur la meilleure gestion au niveau des services municipaux, et également sur les questions qui ont été très tôt. Donc c'est pour ça que Jean-Pierre, je pense que j'entendais mal ce que tu disais, mais a fait référence à certains essais qu'il avait pu faire sur le 2007 par là, moi je pense que ce qui manquait peut-être pour avoir le déclic, c'est effectivement une volonté et puis quelqu'un qui puisse prendre le temps et la technicité pour le faire. Alors, moi, je suis ravie de l'arrivée de M. Schipper, parce que je pense que ce qui manquait, c'était vraiment une direction à ce service qui était rattachée directement au DGST. Voilà, la propriété des espaces était rattachée directement au DGST, et bien sûr, le directeur des services techniques, tous les services techniques à gérer. Bon, là, on a un directeur propriété des espaces, donc je pense que les choses vont pouvoir s'étudier. Voilà, alors sachant que effectivement le gros problème de la ville d'Arles, c'est un problème financier en fonctionnement, on a quand même un déficit structurel, on a une surface de voirie équivalente à une ville de 100 000 habitants et une ville de 52 000. Dans les essais qui avaient été faits sur les techniques, bah, c'était souvent un peu une augmentation de main-d'œuvre, et ça c'est quelque chose qui ne passera pas chez nous. Donc il va falloir qu'on trouve certaines solutions. Bon, moi je partage l'analyse qui a été faite. Je pense qu'il faut avancer progressivement, puis essayer d'avancer avec succès. Si d'autres se passent sur le neige, je pense qu'effectivement le service des espaces verts, c'était la première étape à franchir, avec un personnel qui, je pense, est quand même sensibilisé à l'effet. Et on pourrait commencer à mettre en place certaines choses.
Donc pour l'agence de l'eau, là, tout à l'heure on parlait des aides à 50%. Donc on a vérifié, hein, c'est pas dans le cadre d'un appel à projet. Vous pouvez déposer une demande de subvention à n'importe quel moment. Il n'y a pas de date limite, quoi. Voilà. Ouais. Et pour le volet emploi, peut-être que Mirama sera un retour tout à l'heure, mais il y a possibilité aussi de travailler avec des chantiers d'insertion, donc soit des ESAT, soit des associations qui mettent à disposition du personnel.
Oui, mais là je pense que ça peut rejoindre le volet de la formation, parce que bon, je pense que de toute manière, si on reprend, on ne comprendra pas de la sensibilisation d'une part, parce qu'il faut passer certaines études, et sur la formation personnelle, effectivement. Et également, alors on a aussi des entreprises d'insertion, et vous savez, les espaces verts travaillent avec des entreprises d'insertion aussi, hein, sur l'entretien. Mais là aussi, ça va nécessiter de les inclure dans cette dynamique à la fois de sensibilisation et de formation de leurs agents là-dessus. Et puis une acceptation du public aussi. Donc là aussi, c'est un travail de sensibilisation. C'est pour ça que je pense que le partenariat des deux services est intéressant, d'avoir le volet technique effectivement sur l'interne, et puis peut-être de l'autre côté plus l'accompagnement aussi, aussi également au niveau du public, pour une certaine acceptation.
Merci bien.
Monsieur Moé et Patrice, la mairie de Martigues, on travaille au service espace vert, donc je suis animateur prévention en hygiène sécurité. Et je m'occupe de toutes les questions liées au phyto, et notamment les alternatives et la mise en place du plan de désherbage et d'un plan de gestion durable. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été faites depuis un certain nombre de temps, depuis 2002-2003. On avance petit à petit, et là, au niveau d'aujourd'hui, il faut mieux formaliser et se recentrer sur les objectifs qu'on avait auparavant pour avoir un résultat qui tient en route d'ici 2013-2014. Voilà. Donc, fongicides et on a de mémoire qu'on n'utilise pratiquement plus rien. Et peut-être encore un petit peu en herbicide où on a vraiment diminué les quantités. Et donc, on va s'atteler à trouver d'autres alternatives.
C'est quoi l'objectif 2013 ou 2014?
Ben, c'est le temps qu'on mette nous en place les choses au niveau d'une méthodologie qu'on n'a pas forcément, qu'on avait, c'est parti tout à l'azimut, on n'a rien de cadré vraiment bien précis. Donc là, on retravaille sur la méthodologie. Le volet communication, il va falloir sensibiliser les élus. Ça, c'est le volet le plus difficile, je pense, au niveau du monde. Voilà. Nos agents, eux, sont prêts. Il y a deux types d'agents. Il y a tous les nouveaux embauchés où ils sont vraiment sensibilisés aux problèmes environnementaux et les personnes plus âgées où là, il y a plus de réticence parce qu'ils se disent, ça fait 40 ans qu'on est comme ça et ça marche très bien. Voilà, pour ma part, c'est ce que j'ai à dire. Encore une bonne conception et aménagement, plutôt bon collègue.
Je m'appelle Gouin Michel, je travaille aux espaces verts, je suis technicien, je suis responsable de la maintenance des espaces verts et je m'occupe un petit peu de la conception aussi. Donc c'est vrai que bon, au niveau du service, on a bien diminué les quantitatifs de. Surtout au niveau pesticides, tout ça, on a bien divisé par trois et on a encore des soucis au niveau de pour la mise en place. Quoi. Et surtout, notre chef de service est partant, mais après, ça on ne voit pas de volonté pour l'instant politique pour aller plus loin. Quoi. Donc c'est vrai que bon, ça demande quand même des moyens et des moyens, on en manque, malgré qu'on soit la mairie de Martigues. Jusqu'à présent était assez riche. On manque quand même de moyens et de volonté aussi. Donc on est venu pour voir un petit peu pour chercher des pistes pour essayer de convaincre à la fois les élus et aussi nos agents, ce qui n'est pas évident pour mettre en place quelque chose.
Et sur les alternatives que vous avez mises en place, c'est quoi alors? C'est du.
Ben, c'est surtout du paillage.
Du paillage.
Voilà, surtout du paillage. Changer aussi, s'orienter, on avait beaucoup de pelouses, enlever pas mal de pelouses et s'orienter plutôt vers les lilases. Voilà, on avait beaucoup de massifs de fleurs, on est quatre fleurs, quand on a pris le fleurissement, voilà, on a beaucoup supprimé. Bon, aujourd'hui, on arrive à peu près à un équilibre. Bon. On travaille là-dessus. Et ça, faut continuer.
Nathalie Maestre, je suis responsable du service urbanisme et environnement de la commune de Port-Saint-Louis. Nous, à Port-Saint-Louis, aujourd'hui, on travaille sur les polluants, la qualité de l'air, puisque nous sommes situés quand même entre le parc naturel de Camargue et la zone industrielle de Fos. Donc, on est pas mal impacté par tout ce qui est pollution. On travaille donc avec RPACA sur la qualité de l'air et aujourd'hui, on s'intéresse à tout ce qui pollution des sols. Donc, Ouest-Provence, notre intercommunalité travaille dans le programme Y sur la pollution des sols. Et la ville de Port-Saint-Louis veut montrer à sa population le bon geste. Donc, nous, on a un projet de jardin partagé qui est en cours, qui est réalisé par l'association Amélie, qui est un chantier d'insertion. Et donc on a une charte qui est en cours d'élaboration pour les gens qui vont participer à ces jardins pour ne pas utiliser de pesticides. Voilà, donc c'est la première action. Et derrière, bon, le directeur des services techniques de l'école aujourd'hui n'a pas pu venir parce qu'on avait un incident sur la commune. Et donc je suis en charge de travailler avec lui justement sur ces problèmes de pesticides utilisés sur les voiries. Donc on est dans cette démarche-là. Le début qui est très dynamique et qui veut absolument qu'on travaille dans ce sens.
C'est bien. Très bien. Ça, c'est bien. Vous montez des vues, bien sûr.
Julie,
on va profiter.
Bonjour. Bonjour, je m'appelle Aymeric Guitti, je suis contrôleur de travaux à la ville de Lire. Je suis en charge d'une partie des équipes techniques. Là, depuis quelques temps, on est confronté à une légère baisse de personnel. Et on s'est aperçu que le désherbage chimique avait repris. Ça avait bien diminué les premières années. Puis là, on s'est aperçu que ça a un peu continué à augmenter par rapport au manque de personnel. Alors, je suis venu voir trouver avec ma directrice des mesures alternatives. On a déjà pas mal commencé dans le service. Et surtout, notamment au niveau des cimetières, qui sont des très grands consommateurs de désherbants. Voilà. J'ai fait un état des lieux à peu près. Bon, c'est du simple double par rapport à les autres, par rapport à la superficie et au nombre de cimetières. Et puis après, au niveau de la réglementation, la nouvelle réglementation que j'ai appris ce matin. Voilà. Et là, la directrice a souhaité passer un cap supérieur, donc elle m'a chargé de cette mission et d'autres mesures alternatives pour diminuer les désherbants.
Et moi, j'essaie d'évoluer, donc la directrice de Didier. Dans l'espace vert de la Vildière. Alors, c'est vrai que la Vildière, on s'est mis à fortement diminuer l'emploi des pesticides, mais aussi des engrais, notamment sur les pousses, depuis une bonne quinzaine d'années, puisqu'on a fait de la vie biologique en production sous serre et en serre exotique depuis le milieu des années 90. Depuis 5 ou 6 ans, on est en extérieur, on est passé en but biologique sur certains arbres d'alignement et de place, comme les tilleuls, les orgues, etc. Donc, une partie du personnel a été formée aussi sur la vie biologique. Pour la réduction des désherbants, Didier a raison. Les 3 premières années, quand la volonté et la décision a été prise de faire un effort dans ce domaine, on a divisé par 6 l'utilisation des désherbants sur la commune, ce qui était très très bon résultat. Et il y avait encore à faire, notamment sur les cimetières, c'est vrai qu'on en a quand même pas mal aussi, mais il y avait encore des marges de progression. Et depuis, on va dire, 2010, on a perdu un cinquième de notre personnel en volume de jardiniers sur le terrain. Donc, on se rend compte, puisqu'on suit, on fait un relevé de nos stocks de produits phyto et un suivi des populations mensuelles, équipe par équipe, secteur par secteur. Donc, mois par mois, et puis en bilan en fin d'année, on s'est rendu compte à partir de l'année dernière, fin d'année, qu'en fait, les consommations de, pas de pesticides, mais de désherbants étaient en train de réaugmenter. Donc, quand on fait le point avec les équipes, et bien, là où ils étaient 6, ils sont plus que 3, donc ils utilisent un peu plus de désherbants. C'est vrai qu'on est confronté aussi à un linéaire de voirie assez impressionnant, une commune très étendue, avec des fractions de communes aussi, beaucoup de fractions de communes éloignées de la ville. Voilà, donc on a travaillé aussi sur un fauchage raisonné des accotements. On avait commencé à bien avancer aussi dans ce domaine. On n'est pas les seuls utilisateurs, c'est-à-dire qu'on a service, c'est pas nous qui nettoyons, qui désherbons les voiries en ville, mais c'est le service propreté qui passe par le biais d'un marché. Donc c'est vrai qu'on peut travailler en régie sur comment faire pour utiliser des méthodes moins consommatrices, mais il faut aussi, je ne sais plus qui disait ce matin, travailler absolument sur nos marchés publics, tant en entretien d'espace vert que en nettoiement. Parce que c'est aussi une grosse partie des superficies traitées qui sont concernées. Voilà, ce qu'on a installé, la toute première opération qui a été faite, donc il y a plus de 15 ans maintenant, c'est qu'un jour on a dit on arrête complètement les traitements préventifs. Parce que tous les hivers, on faisait les traitements fin d'hiver, la nuit, avec les gros canons, là, un peu partout. Sur nos hectares d'espace vert. Et un peu comme la ville qui dit là j'arrête tout, bon, on a arrêté que les pesticides, mais bon, on a arrêté les traitements préventifs. Et on s'est dit, au printemps prochain, ça va être l'explosion des sucrons, des acariens. Mais le printemps qui a suivi, il n'y a pas eu d'explosion du tout. Et puis puis des pucerons, des acariens, ben, ça devient anecdotique. La conclusion, c'est que, bon, en travaillant un peu sur les auxiliaires dans nos serres, on est un petit peu habitué à regarder, c'est que finalement, les auxiliaires naturels, ben, c'est plus développé, voilà. On en voit sur le laurier rose, sur le pucerons, les momies. Donc voilà, ça, c'était un très grand pas. Ce qui fait qu'en pesticides et fongicides, on n'est pas à zéro, mais quasiment. C'est très exceptionnellement qu'on utilise des insecticides en curatif. Fongicides aussi, ponctuellement sur palmiers quand il y a un gros souci. Mais voilà. Donc reste à régler la problématique des herbants. En tout cas, revenir à un niveau moins comme il y a 2 ans en arrière. Alors, comment l'expliquer? On a, bon, la diminution de personnel. C'est vrai qu'on a eu, je n'apporte pas de critique, mais on a eu un changement d'équipe municipale aux dernières élections. Et on est parti sur des bases où ça a été un petit peu, j'ai entendu tout à l'heure tous azimuts, c'était un petit peu ça. Au départ, où il fallait que ça soit propre là, l'air qui pousse là, le machin, qui a fallu, voilà, on a un petit peu réorganisé les services, ce qui a aussi participer à la confusion en interne. Plus personne ne fait comme il faisait. Les cours d'école, c'était les uns, maintenant c'est les autres. Donc on a quelques années de flottement. Et c'est vrai que l'organisation, la méthodologie, c'est très important. C'est pour ça que j'ai demandé à Didier de travailler, puisqu'il semble s'intéresser au sujet, de m'aider à coordonner ça et à remettre sur la table des plans d'action et à faire aussi le relais auprès des équipes, etc. Alors, ce qui est venu se greffer aussi dernièrement, c'est nos problèmes de charançon sur panier. Pour la visière, c'est vraiment catastrophique. On a tenu bon encore aujourd'hui à ne pas faire de traitement préventif, parce que l'imidaclopride, le confidor, sur toute la ville, on s'y est refusé. Donc c'est vrai que ça galope un peu, mais on fait des assainissements et on attend des solutions biologiques qui seraient dans les tiroirs pour, espérons-le, à échéance assez proche. Voilà, donc c'est vrai que c'est en plus, et ça vient en plus, ça ne nous aide pas à nous organiser. On est un petit peu la tête dans le guidon, là, pour l'instant.
Donc si vous aviez eu un document, un plan de gestion, un document un peu global avec les différentes tâches effectuées pour l'ensemble de vos agents, ça vous aurait évité ce flottement-là
On avait mis en place un système où en interne, on faisait de la formation à nos agents, 2-3 fois dans l'année, réunir soit tous les agents, soit les chefs d'équipe, de se passer l'état de dose, une petite formation comme ça. On a mis en place aussi des petits livrets de bord par équipe, où ils mettent leurs suggestions, qu'est-ce qu'ils ont fait tel jour, quel produit, pourquoi, et puis après remonter la formation, en discuter, pourquoi. Donc il y avait un circuit quand même de choses qui étaient... On avait commencé à répertorier nos surfaces imperméables, disons que ça, on a levé le pied à ce niveau-là, de voilà, manque d'effectifs et puis de personnes qui ne sont plus vraiment là, la nécessité de reformer, de recadrer des gens sur là-dessus. Bon, on a eu aussi, je parlais d'équipe municipale qui a changé, mais on a eu aussi en 3 ans 3 adjoints au service, ça a tourné aussi à ce niveau-là. Donc mettre en place quelque chose avec l'appui des politiques, c'est aussi des plus à ce niveau-là. Mais la volonté globale de la ville, c'est le développement durable, enfin, c'est bien sûr affiché. C'est pas qu'il n'y ait pas la volonté de faire, c'est un petit peu brouillon.
Ouais. Du coup, comment vous envisagez la suite là, pour les prochains mois ou années
Ben, les prochains mois, là tout de suite, bon, on va continuer ce qu'on fait parce que on parlait aussi en méthode alternative, on fait du. De paillage, ça c'est assez nouveau. Disons qu'on augmente le paillage parce qu'on broie nos palmiers morts. Que les types sains, hein, on balance pas les gens. Et ben, on s'est aperçu que c'était très, très efficace. Il y avait pas mal d'agents qui étaient réticents.
intéressant aussi à mettre du paillage et puis finalement qui trouve ça bien. Donc, voilà. L'objectif aujourd'hui, c'est de mettre en place un planning annuel ou de mutualisation entre nos équipes qui prend la cuve pour faire quoi, faire avec une cuve, plusieurs secteurs, etc. Et ça, aujourd'hui, bon, avant, j'étais personnellement en charge de ces problématiques. Depuis 2 ans, je remplace le directeur qui est malade, donc je l'ai nommé à sa place, et donc j'ai d'autres charges à prendre, plus de mes charges que. Voilà, ça, il n'a pas été remplacé. Donc c'est pour ça que maintenant, avec l'idée, je pense qu'on va pouvoir reprendre quelque chose, puisque lui, il est en direct, il chapeaute toutes les équipes sur le terrain. Et donc, il est idéalement placé pour faire ce relais et puis qu'on puisse ensemble mettre en place quelque chose.
Olivier Platon, service espace vert sur mer. Bon, ben, nous, comme la mairie de Martigues depuis des années, quelques années, bon, on a limité déjà la prévention par des paillages, des bâches plastiques, tout ça. Et depuis quelques temps, donc, on est lancé dans la réflexion sur le plan de désherbage, sur l'achat de l'appareil de désherbage alternatif, et donc on est venu aujourd'hui avec mon directeur des services techniques pour prendre des informations, essayer d'avoir des retours d'expérience d'autres communes. Donc il y a des choses qui commencent à se mettre en place sur la ville, une équipe de nettoyage, de désherbage alternatif, de suivi des projets que font les entreprises où les forces à faire du paillage. De choses se mettent en place.
Vous avez acheté du matériel déjà ?
On est dans la réflexion.
D'accord. De quand vous dites désherbage alternatif, c'est comment alors ?
Pour l'instant, c'est aller à la binette.
D'accord. À l'ancienne. Voilà. Ça marche, c'est manuel. J'ai des
voilà, du matériel est prévu.
Mais le plan de désherbage, il est en cours ou vous l'avez mis en place ?
À partir du 3 janvier, on
attaque. D'accord.
Une équipe qui est créée.
Et vous avez fait une demande auprès de l'agence de l'eau pour.
On s'est renseigné justement.
Ouais.
On vient d'apprendre aujourd'hui.
D'accord, ça vaut le coup là. Bah, oui.
Ah, là, ça, enfin,
là, ça vaut le coup.
Ah, d'accord.
On savait pas qu'on avait droit à des aides.
On va faire un canal dessus.
Appelez dans la journée.
Vous avez même le prestataire qui est là.
Ah oui, mais très bien. Ça fait de l'efficacité.
Donc moi, je suis Cyril Cazal, je suis directeur du service environnement de la commune de Miramas. Donc moi, c'est un domaine dans lequel je travaille depuis pas mal de temps. Moi, j'arrive de la commune de Cavaillon, donc il y a pas mal de choses de faites. Je travaille à le bar du Libéro, notamment. Donc ça fait 10 ans à peu près que j'essaye des solutions alternatives, que je travaille sur les auxiliaires, sur tous ceux qui vivassent, etc. Donc en fait, j'ai aussi été recruté sur Miramas, c'est en fait pour mettre en place ce que je savais faire. Donc sur la commune, c'était une volonté de du maire. Donc à partir du moment où il m'a contacté, pour me débaucher. Donc, en fait, moi, ça m'intéressait de pouvoir faire ce que je voulais faire. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai présenté un projet de service, donc j'ai présenté aux élus. À partir de ce moment-là, je sais que je peux travailler de la façon dont je veux, etc. Donc bien suivi par le maire, bien, je veux dire, il y a un chargé de mission à l'agenda avec qui je travaille bien, enfin, je veux dire, pareil, on est bien sur la même longueur d'onde. Donc les services espaces et verts, donc ils sont aussi dans cette province. Donc à mon arrivée déjà, on a supprimé tout ce qui est traitement phyto et la vie. Donc que ce soit sur le positionnaire, le tuyau de platane, donc on a arrêté. Sur tout ce qui est désherbage, on a dû diminuer de 80%. Moi, je pense à fin 2014, d'être à 0%, c'est-à-dire à 0 phyto. Donc, et hormis toutes les solutions alternatives dont on a pu parler, etc., je pense que, justement, par rapport aux diminutions de personnel, etc., je pense que les associations à l'insertion, ça fait partie, enfin, c'est une piste à développer, je pense. Parce que nous, on a mis en place ce qu'on appelle une brigade verte, donc, avec des personnes en insertion, donc avec des subventions du conseil général, etc. En sachant qu'une personne doit revenir à peu près 2 500 euros l'année subventionnée. Donc je pense que c'est des pistes. Après, c'est pas moi qui veux dire le montage financier, c'est une personne qui s'en occupe, mais qui peut éventuellement voir avec des personnes que ça peut intéresser. Et en fait, donc, ces brigades donc, interviennent uniquement de façon manuelle. C'est des gens qui ont des contrats de 3 à 6 mois. Pendant cette période-là, ils ont de la formation, etc. C'est des personnes qui sont en rupture au niveau du travail, que ce soit des jeunes de 20 ans ou 50 ans qui reprennent le goût au travail à travers cette association, en leur expliquant qu'ils ne sont pas là pour désherber les rues manuellement, mais en fait, c'est pour vraiment participer à quelque chose de concret et d'intéressant. Donc ça passe assez bien, que ce soit au niveau des personnes, donc au niveau de la commune, où en plus c'est des gens qui sont identifiés avec les brigades vertes. Donc maintenant, je pense qu'elles sont très appréciées dans les quartiers. Et donc on essaie de les faire alterner sur des travaux, enfin, des arbages de voirie, sur des travaux sur l'environnement, enfin, sur des sentiers, etc. Donc voilà. Nous, donc, on travaille sur plusieurs thématiques, que ce soit sur l'eau, que ce soit en fait. Donc tout ce qui est produits phyto, on fait des recherches sur les eaux de surface, sur le souterrain, etc. Et pour en venir au plan des herbages communal, par exemple, moi personnellement, je n'ai pas le temps de travailler dessus. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Et pour ça, on associe un lycée agricole. Moi, je pense qu'à l'IA, c'est peut-être quelque chose qui est faisable aussi. Donc, et en fait, ils sont très demandeurs. Enfin, nous, depuis qu'on a passé une convention avec le lycée agricole de Miramas, et en fait, on travaille sur plusieurs thèmes. Donc il y a un BTS donc, qui travaille sur le plan de désherbage communal. Donc ils ont fait la phase de diagnostic, matériel, etc. Donc ils vont attaquer ce qui est cartographie. Donc en leur donnant l'idée, enfin, nous on leur donne les grandes lignes, après à eux de travailler dessus. Et donc un BTS de chez nous, donc c'est tout ce qui est beau, sur lesquels on leur fait cartographier la commune au niveau des canaux. Donc en fait pour installer des stations de pompage pour utiliser de l'eau brute, en sachant qu'on est déjà entre 70 et 80% d'eau brute sur l'arrosage des espaces verts. Donc on utilise quasiment plus d'eau potable sur la commune. Et donc un groupe qui travaille sur la problématique de cartographie canaux, stations de pompage. Donc où je leur fais, ils identifient les stations existantes. Ce que je leur demande, c'est de me dire jusqu'à quelle capacité d'utilisation on peut avoir, soit pour étendre les réseaux. Et donc le deuxième groupe qui travaille sur tout ce qui est pollution, donc pollution et tout ce qu'on retrouve comme que ce soit engrais, etc. Ça s'appelle une durée chez nous. Donc en sachant que c'est pareil, donc on est une commune où on a beaucoup d'eau, on a beaucoup de canaux. Donc on part du principe que si on crée un espace vert, si on a de l'eau, on fait ce qu'on veut, entre guillemets, quoi, je veux dire. Si on veut faire des petits bouts, on en fait, mais quand même en tenant compte des variétés, et des gradients qui sont plus économes en eau et surtout des pousses plus lentes pour économiser le matériel. Et les endroits où on n'a pas d'eau, on passe sur des jardins secs. Donc on a déjà réalisé plusieurs jardins secs, donc il n'y a aucun arrosage. Donc là c'est pareil, là c'est il faut faire attention comment on le fait, bien prévenir enfin, les gens et les élus qu'un jardin sec, quand il est fini, habituellement, c'est gardien. C'est minéralisé. Les plantes, les maximums, elles sont autres comme ça. Donc, on travaille avec ceux qui connaissent, avec les plantes de Philippines. Et voilà, en gros, sur ce qu'on est parti. Donc, bien sûr, après, il faut arriver à communiquer de la population, la formation des agents. On a le même problème de tous, c'est-à-dire que les jeunes, c'est facile à les envoyer à la formation, à les motiver, et les plus anciens, bon, c'est plus réticent. Après, nous, on a des herbeurs thermiques. Des herbages mécaniques, des herbages d'entrepression. Après, ça vaut ce que ça vaut. En fait, il faut les adapter à certaines, à des petits endroits, vraiment expliquer aux gens qu'il faut passer plus souvent, sans la vue. En gros, voilà.
Pas mal de choses, et puis finalement, vous déléguez pas mal de tâches à différents types de groupements de personnes.
C'est intéressant, le lycée agricole, c'est intéressant parce que. Ils nous prennent du personnel en formation aussi, quand ils font des formations pour les élèves. Donc chaque fois, on a 2-3 agents qui vont dans le lycée agricole et qui suivent...
C'est super.
En fait, on a passé une convention, mais ils ont financièrement, on leur donne de l'argent. En fait, ils leur permettent, avec cet argent-là, ils font des voyages d'études et tout comme ça. Et donc, il y a un échange avec une restitution, quand ils font un bilan en fin d'année, etc. Et après, on a une thématique avec... de classe de bac pro sur un événement qui s'appelle Nature en Fête, où ils font un jardin événementiel et donc qui est sur le développement du grand.
D'accord. Merci.
Moi je suis Boudas Michel, responsable des espaces verts de ville Miramas. Je n'ai pas trop de choses à dire, mais
si vous avez beaucoup parlé, le retour sur les agents.
Comment ?
Le retour des agents, comment ça s'est mis en place avec les agents en interne ?
Ben, c'est comme on a dit, c'est très difficile. On a bien un autre aussi, pareil. Il y en a ici 30 ans qui sont là-dedans.
Ouais.
Et bon, ils sont deux bornés.
Les anciens, quoi.
Voilà. Ouais. Les nouveaux, bon, moi, eux, on leur dit c'est comme ça pour les signaler. Et après, les anciens, c'est très difficile. Ouais. Mais ils veulent rester encore dans leur...
À l'ancienne.
En utilisant la main-d'œuvre des associations de l'utilité, est-ce que ça a baissé votre taux d'emploi ou de recrutement de personnes qualifiées?
Non,
de jardiniers.
Il y a certaines brigades, donc la passée brigade verte, oui. qui ont été 2-3 personnes, qui ont été embauchées par le biais de cette association.
En fait, on remplace le personnel qui part à la retraite. D'accord. Mais alors, l'avantage qu'il y a, c'est qu'avant, quand il y avait des personnes qui étaient embauchées sur la commune, ils embauchaient un peu n'importe qui, n'importe comment, l'ami, le cas social, etc. Ouais. Donc maintenant, en fait, dès qu'il y a une personne qui part à la retraite, donc, nous on fait une fiche de liaison, on dit le type de poste qu'on veut. Si, par exemple, actuellement, on a de plus en plus de stations, on va embaucher sur un poste de jardinier, on va embaucher un électromécanicien. Mais maintenant, tout ce qui embauche, ça se fait sur recrutement. Il y a une commission, donc la personne qui est intéressée, il y a des annonces qui sont au Pôle emploi, etc., qui sont comme quoi il y a un poste à pourvoir. Donc les gens font une lettre de motivation avec leur diplôme, etc. Donc on fait la présélection de certains candidats. Nous on essaye de tourner niveau bac.
Ouais.
Sortent une école d'agriculture avec un niveau bac.
Mais est-ce que l'emploi de cette main d'œuvre va pas freiner?
Non, justement.
Voilà, c'est ça que je veux dire. Le recrutement,
une personne qui part à la retraite, on remplace.
Les gens de l'insertion, voilà.
Contre, l'avantage, c'est que ça s'est même amélioré, puisqu'en fait, le personnel, les personnes qui sont rentrées, on va dire là, depuis ici, je sais pas, il y a 7-8 personnes, ce sont que des personnes qui sont qualifiées.
D'accord.
En plus, moi, j'insiste, il y a des postes clés, j'insiste. Moi, je vais à la spécialité du gazon. Je veux dire, il y a des personnes qui sont pétantées. Si ça ne convenait pas, on a refait une commission de recrutement jusqu'à ce que j'ai vraiment la personne qui m'intéressait. En fait, j'ai recruté un greenkeeper. Donc, qui était, le gars, quand je suis allé assez loin avec les questions que je lui ai posées, je veux dire, le gars, il connaissait les gazons par cœur. Même je pouvais parler de mélange de graminées, etc., de maladies de gazon. Le gars, et j'ai insisté pour que ce soit lui. Après, on a recruté aussi, on n'a pas forcément de personnel aussi très pointu. Et par exemple, ce qu'on disait aussi, ce sera les brigades vertes. On a repéré des personnes qui étaient intéressantes.
D'accord.
Et qu'on a embauchées aussi. Ça peut être pendant 3-6 mois. Et ces personnes qui avaient l'air intéressantes, donc on les a embauchées. Mais ça n'a pas freiné.
Voilà,
on a toujours le même nombre de personnes. En fait, on est parti sur le fait qu'on veut utiliser moins de produits. Et que, je veux dire, utiliser moins de produits, c'est souvent avoir plus de main-d'œuvre. Même si on a des herbeurs thermiques, de l'eau chaude, c'est beaucoup plus lent à passer, donc de passer sur ces associations. Et en fait, ces associations, ce sont un peu comme des entreprises. Il y a les encadrants qui sont permanents, et après le personnel qui tourne. Mais on est des donneurs d'ordre. On leur dit, voilà, vous avez tel travail à faire, et de telle façon.
Je suis l'emploi en direct. Comment vous êtes, Owen ? C'est un peu de précarité aussi. Comment vous êtes...
Par contre, c'est précaire et ça ne l'est pas. Parce que souvent, c'est des gens, mais il y en a, c'est impressionnant. Ça fait 5-6 ans qu'ils sont au chômage.
Je suis d'accord.
Donc, il y a certains qui viennent là, ils découvrent une passion, ils parlent un succurs sur cela. Ils ont des propositions. Comme je leur ai dit, moi, vous n'allez pas forcément déboucher sur un emploi sur la commune. Mais il y a des agents, moi, qui franchement, quand je les vois, ils ont un comportement, les gars, c'est intéressant. C'est même dommage qu'ils ne travaillent pas. Il y en a qui sont... Et là, c'est intéressant. Et il y a même des gars, des entreprises qui cherchaient des personnes. Je leur ai dit, telle personne, elle peut être intéressante pour vous. Et de même, là, moi, quand je les reçois, je leur dis, vous êtes peut-être, il me semble que vous êtes là pas longtemps, mais montrez ce que vous savez faire et montrez que vous êtes volontaire. Et si un jour on vous propose, quelqu'un qui vous propose un emploi, je veux dire, vous venez me voir, moi, si la personne vous semble qu'elle a été sérieuse, je lui fais une lettre de motivation, je fais une recommandation. Et ça m'est arrivé pour une personne.
Si ça ne vous dérange pas, on finit vos questions, c'est très intéressant, donc la question, je vous engage encore à échanger autour de ça, plutôt en fin d'après-midi. Je vous remercie.
Moi ça va très vite en fait.
Oui, après.
Dès que Béfeld de la réserve de Camargue, on sort un peu du cadre de beaucoup de gens, parce qu'on est gestionnaire de réserve naturelle, d'espace naturel, n'utilise pas les pesticides et tout ça. S'il y a des plantes, on va les sortir, on les arrache. Mais on est intéressé par la thématique parce que de toute façon, on récupère tous les pesticides et les herbicides et tout ça dans la lagune de Vacaresi. Il y avait bon, tout à l'heure aussi l'étude de Ellen Roche chez l'alimentaire, sont contaminés par les pesticides. Et puis on a lancé il y a 2 ans une étude avec le financement aussi sur les contaminations des pesticides dans le Vacaresi, dans la lagune, qui viennent surtout par les rizières, en fait, par le traitement de rizières, par un canal de drainage qui, depuis des années, amène l'eau contaminée dans la rizière.
Donc, Monique Lagarde, élue responsable des espaces verts Pérol, dans les Hauts, dont notre commune a été sélectionnée l'an dernier par l'agence Rhône et Loire, l'agence de l'eau, pour faire sa journée zéro pesticide à Pérol. Donc, je vais laisser la parole à Didier Bourri, qui est responsable du service des espaces publics et qui maîtrise ça parfaitement, puisqu'il travaille sur la commune depuis 1983. Oui.
Je n'ai pas trop de temps, puisqu'on va intervenir. Donc, Didier Bourri, je suis chef du service espace public. On est une commune qui habite à peu près, et on a un agent espace public, donc la propriété urbaine, des espaces verts. En sachant que dans ces 18 personnes, il y a un tiers du temps qui compte, qui est des heures de récupération, on va dire, des festivités festivales. Et même tout au long, le temps des festivités récupérées dans les villes. Mais le temps de travailler pas souvent. Après, j'interviens un peu plus peut-être tout à l'heure pour le témoignage.
Et Clément aussi, tu présenteras un peu plus tout à l'heure, dans ce cas.
D'accord.
Non, mais du coup, les intervenants. Non, c'est-à-dire que c'est le privilège des intervenants, c'est qu'on aura plus, encore plus de temps normalement pour présenter notre propos.
Et sinon, il y avait la commune de Rognac qui a dû partir, qui était attendue cet après-midi, mais donc a commencé à réfléchir à la démarche sans mettre en place vraiment de techniques alternatives sur son territoire.
Oui, je suis désolée de couper un petit peu. On est obligé donc. Oui, vu qu'on est bien pris par le temps. Alors, Benoît, est-ce que c'est toi qui lance donc cette partie plus technique? Voilà, et viens peut-être à côté de moi, ce sera plus simple. Donc on présente la partie plantes désherbables, plantes gestion différenciée.
Voilà, exactement, je vais tenter de vous expliquer un petit peu comment mettre en place un plan de désherbage et un plan de gestion différenciée au sein de votre commune. Donc l'explication, elle est surtout faite par rapport à un retour d'expérience que nous avons réalisé, les études, voir comment nous on les met en place au sein de vos communes. Donc ces extraits-là sont aussi applicables en interne dans vos structures également. Donc tout d'abord, je vais vous présenter le plan de désherbage alternatif. Donc pourquoi créer un plan de désherbage alternatif? Tout simplement, en fait, pour répondre à différents objectifs, pardon. Donc d'un point de vue phytosanitaire, on va essayer de rationaliser leur usage, d'appliquer les produits phytosanitaires à des zones qui le sont vraiment nécessaires, qui ne sont pas, entre guillemets, inutiles. On verra quelques exemples, vous me direz un petit peu de ce que vous pensez de ce type de désherbage. Ensuite, l'objectif sera justement d'utiliser des techniques alternatives, donc ça c'est quelque chose qu'on a vu un petit peu en cours de matinée, puis avec vos différentes réflexions. On va essayer de vous montrer également qu'il est possible de se mettre en conformité avec les réglementations, néanmoins, l'aspect réglementaire est très difficile pour vous à respecter, et donc voilà, on va s'engager sur ces fameuses techniques alternatives et bien entendu l'aspect communication qui est primordial dans ce type de démarche. Donc voici les différentes étapes du fonctionnement d'un plan de désherbage dit alternatif. Donc la première étape, en fait, si vous voulez, on va réaliser un inventaire de l'ensemble de vos pratiques réalisées à l'heure d'aujourd'hui, et on va également réaliser l'inventaire total des surfaces entretenues. Donc ça nous permettra de cibler vos surfaces qui sont actuellement désherbées et vos surfaces qui ne le sont pas. Donc ça donne lieu à l'élaboration d'une carte, soit sous format cadastral, soit sous une vue aérienne. Donc ça dépend les envies et la demande de la commune aussi. On peut adapter ces cartes en fonction de la demande. Ensuite, une étape que l'on qualifie de définir les objectifs d'entretien. Donc là, ça va être notamment un échange entre les différents services, entre nous prestataires, vous agents communaux, ou élus, etc., pour vraiment que la démarche soit globale. Ensuite, une étape 3 qui va consister donc à classer les espaces verts. Donc, notamment sur la commune de Hyères, vous nous avez parlé auparavant que vous essayez de classer les espaces en fonction des risques élevés et risques réduits. Donc ça, c'est quelque chose qu'on met en avant pour montrer là où le désherbage chimique doit être à proscrire dans les années à venir. Ensuite, une étape 4, donc là, on vous laisse un petit peu en solo, où pendant une année, vous allez intervenir sur vos espaces verts et vous allez rédiger sur un papier bilan, entre guillemets, vos différentes interventions. Donc ça, ça va nous permettre de mettre en place l'étape 5, qui est le bilan du plan de désherbage. Et on va pouvoir mettre ensemble, une année après la réalisation du plan, quels sont les objectifs à améliorer et à modifier par rapport au plan de désherbage qui a été établi à la base. Donc voici un petit peu plus en détail le type de réalisation technique que l'on fait dans l'étape 1. On fait notamment un inventaire de tout ce qui est diagnostic de vos pratiques actuelles en produits phytosanitaires. Donc pour cela, on constate l'état actuel de votre local de stockage. On vous informe de la réglementation qu'il est actuellement encouru pour respecter le cahier des charges qui dit qu'un local doit être ventilé, aéré, etc. On en a déjà un peu parlé ce matin. Donc là, bien sûr, il va y avoir un diagnostic également sur le terrain. On va pouvoir constater quel est le désherbage que vous effectuez aujourd'hui. Donc là, je vous montre quelques exemples, notamment dans les Bouches-du-Rhône. Donc là, c'est des désherbages qui sont réalisés en bordure de massif ou même en bas à droite sur des terrains de football. Donc voilà, voir la nécessité au niveau esthétique d'un désherbage de ce type et voir son utilité. Une débroussailleuse peut être notamment utile en pied de pylône ou le long des roches en haut à gauche. Je pense qu'on a une formation quand même de jardinier à la base et si on peut utiliser de nouveau des machines qu'on a entre guillemets perdues en utilisant des produits chimiques, ça ne peut être que bénéfique pour notre savoir. Donc voici l'étape 2, donc je vous en ai parlé un petit peu auparavant, où on réunit l'ensemble des élus, agents et donc prestataires concernés par la démarche. Donc là c'est vraiment la période entre guillemets charnière du plan. Donc là ça va permettre d'échanger, de voir pour vous qu'est-ce qui est réalisable, qu'est-ce qui ne l'est pas, et ainsi de faire remonter les différents arguments pour qu'on adapte au mieux le plan de gestion différencié, ou le plan de désherbage. Donc en général, au niveau de l'acceptation de la flore spontanée, on définit deux niveaux d'entretien. Un entretien dit plutôt strict, on va limiter l'apparition des herbes, et on va intervenir dès le stade plantule, vraiment le plus tôt possible en fait. Donc l'aspect esthétique doit être préservé au maximum. Et ensuite un niveau 2 où l'entretien est plus maîtrisé, l'herbe est acceptée dans une moindre mesure bien sûr, on ne va pas laisser fleurir toutes les adventices par risque de propagation dans les différents espaces. Donc là après par la suite vous pourrez être totalement envahi par les adventices. Donc il faut veiller aussi à avoir une certaine maîtrise de cette flore. Donc là ci-dessous vous avez quelques exemples de l'acceptation de la végétation spontanée. Donc est-ce que pour vous c'est une herbe entre guillemets qui vous dérange visuellement? Il y a ces questions à se poser, c'est essentiel dans la démarche du plan de désherbage et aussi dans la communication par la suite. Donc là, on a la présence par exemple de coquelicots le long d'un banc ou sur des calades, la présence de petites herbes assez courtes qui, je trouve, met un peu plus en avant les calades. Donc oui, c'est plutôt un autre atmosphère et ça mélange un peu le minéral au végétal. Et donc on établit ainsi des cartes qui vous permettent de visualiser les emplacements où l'entretien strict et l'entretien maîtrisé doit être mis en place. Donc nous concrètement sur le terrain, en fait on réalise grâce à un odomètre notamment un parcellaire dans lequel on va relever vos différentes surfaces. Donc ça va vous permettre à nous et à vous de chiffrer la superficie entretenue, le type de surface désherbée et donc tout ça par l'intermédiaire visuellement d'une cartographie. Donc vraiment, la cartographie, quand même, c'est une base pour vous permettre de situer vos sites et vraiment de voir à la limite chaque matin en partant au travail, ah là, je vais ici, j'ai tel type d'entretien à réaliser. C'est vraiment une base quand même visuelle qui est intéressante pour vous. Donc là, un autre type de cartographie qui concerne les risques élevés, les risques réduits. Hein. Donc les risques élevés concernant tout ce qui est surface imperméable ou pente relativement abrupte. Et donc vous avez la présence notamment de la ZNT donc qui est applicable au cours d'eau. On en a parlé un petit peu ce matin. Donc les ZNT au minimum sont de 5 mètres et ça peut aller jusqu'à 100 mètres. Donc là vous avez l'exemple en bas à droite d'un cours d'eau qui passe dans le centre-ville. Et donc là ça peut vite poser une grosse problématique pour le désherbage chimique. Il y a un choix à faire. Si vous voulez respecter la réglementation et continuer à appliquer des produits phytosanitaires, il va falloir respecter cette ZNT. Donc voici des exemples de surfaces dites à risque élevé. Hein. Donc on établit également des diagrammes pour que vous puissiez constater quel type de surface sont à entretenir et quel est le pourcentage de votre travail. Donc là vous avez l'exemple par exemple d'un diagramme avec un désherbage manuel, désherbage thermique à gaz. Donc vous pouvez voir que ce sont des tâches parmi d'autres. Donc c'est bien la notion de compléter toutes ces tâches ensemble qui vont faire la réussite d'un plan de désherbage. Vous voyez par exemple que le désherbage manuel occupe une part relativement restreinte, 7%, mais elle sera très, très utile notamment dans les petits espaces, dans des massifs. On ne va pas la généraliser à des rues tout entières. On sait très bien que le désherbage manuel use un homme et n'est pas forcément très réjouissant pour travailler nous en tant qu'agent. Donc voilà, on établit donc des cartes de préconisation d'entretien où on retrouve le fameux diagramme appliqué à une carte. Donc avec toutes les tâches sur la droite, désherbage manuel, paillage, désherbage thermique, etc. Et donc pendant un an, donc je vous l'ai dit auparavant, on vous laisse entre guillemets naviguer de votre propre voile avec un bilan à vous de réaliser. En fait, on vous laisse une petite fiche sur laquelle vous allez pouvoir noter les tâches à réaliser, les temps de travaux effectués sur place. Donc ça, ça va être une base de données qui est utile pour vous, pour essayer de chiffrer un petit peu ce que coûtent vos espaces verts à la commune, mais aussi pour nous, pour ensuite réorienter les objectifs d'entretien. Donc par exemple, je vous cite un espace où on a mis un désherbage thermique sur une calade, et là il y a une grosse problématique, c'est impossible à suivre pour l'agent, il n'arrive pas à le mettre en place, il y a eu quelques remontées au niveau des mauvaises herbes, donc là on va essayer de réajuster le plan de désherbage. Donc c'est quelque chose pour vous montrer que le plan de désherbage doit être mis en place à long terme et ne doit pas être restreint à une année seulement, bien entendu. La gestion des espaces verts doit se voir à long terme. Donc voilà, au niveau d'un peu du plan de désherbage, je vais passer un petit peu sur le plan de gestion différenciée, donc qui est une étude un peu plus globale de l'entretien de vos espaces verts, et en général, c'est une étude beaucoup plus approfondie que le plan de désherbage tout de même. Donc voilà un petit peu au niveau historique, histoire de fixer un petit peu l'échelon au niveau historique. Donc Strasbourg, en 1994, avait notamment abordé ce thème de gestion différenciée lors d'un colloque. Donc les points abordés étaient notamment les suivants, tout ce qui était économie d'eau, biodiversité, espace naturel. Donc ça, c'est vraiment des thématiques que l'on retrouve à l'heure d'aujourd'hui d'une façon récurrente et qui est à développer notamment dans les plans de gestion différenciée. Donc voilà un petit peu la définition de la gestion différenciée. Si l'on devait résumer d'une façon très générale, on peut dire que c'est entretenir d'une façon différente suivant les espaces verts, en s'adaptant à la fréquentation du site, à des monuments historiques. Voilà, la gestion différenciée doit prendre en compte une multitude de critères pour adapter l'entretien au plus juste. On ne partira plus sur un entretien de type horticole qu'on avait tendance à réaliser de façon homogène sur l'ensemble d'une commune, mais voilà, on va essayer de sectoriser l'entretien des espaces verts, de dire ici on va entretenir d'une façon très intensive et dans un lotissement un peu plus éloigné on va partir sur un entretien beaucoup plus extensif type une fauche par exemple. Donc voilà un petit peu, c'est une interaction du coup entre l'homme et la nature. Il faut que l'homme s'adapte aux contraintes liées à la nature. Il y a ainsi une formation à acquérir sur la connaissance de notre nature, savoir reconnaître les adventices, savoir adapter la gestion en fonction des contraintes environnementales. Donc on peut ainsi basculer d'un entretien horticole à un entretien écologique. Bien entendu, autour de ça, il y a des enjeux. Et pour une fois, l'enjeu financier peut être moteur dans ce type de projet, parce que le but d'une gestion différenciée étant de plus entretenir de façon homogène l'ensemble des espaces verts et de sectoriser, ça va permettre de vous dégager du temps pour entretenir bien plus soigneusement des espaces de prestige. Donc c'est aussi le but. Et les espaces de prestige, on le verra par la suite, ça vous permettra de mettre un peu votre savoir-faire en avant. Donc on part un petit peu sur le même principe qu'un plan de désherbage. On réalise un audit, on réalise un inventaire des espaces verts, on classe les espaces verts. Et ce qui sera le plus important pour vous, c'est de réaliser un cahier des charges très précis sur le contenu d'entretien de chaque zone. Donc pour la tonte, la hauteur, la fréquence, etc. Donc les différents types d'espaces qui peuvent être concernés par la gestion différenciée. La totalité des espaces verts sont pris en compte. On pourra même y intégrer des facteurs un peu externes, comme notamment l'éclairage urbain ou encore le mobilier urbain, qui peuvent contribuer au prestige d'un espace vert, entre guillemets. Donc voilà, on retrouve terrain de sport, cimetière, et on retrouvera également tout ce qui concerne les jardinières très gourmands en eau, en énergie et en coût également. Il faut savoir qu'une jardinière au mètre carré, on peut l'estimer à environ 500 euros au mètre carré à l'année. Donc c'est un prix relativement conséquent. Vous essayez de calculer le coût, si vous possédez plus de 500 jardinières dans votre commune, ça peut vite devenir des sommes relativement astronomiques. Donc voici l'exemple d'une classification. Donc là, ces classes ne sont pas figées. Elles doivent s'adapter en fonction de l'usage de vos sites et en fonction aussi de la taille d'une commune et des attentes. Donc on peut ainsi passer de 3 classes à éventuellement 6 classes, avec un entretien allant du très intensif au très rustique, voire naturaliste, où on peut partir sur un inventaire de la faune et de la flore. Donc là, le nombre de classes, il n'est pas figé, il doit évoluer en fonction des communes. Ce que je peux dire d'un point de vue plus personnel, c'est qu'il faut limiter quand même le nombre de classes, parce qu'après, on a tendance à se mélanger les pinceaux. La gestion n'est pas forcément comprise par tout le monde, par les habitants, par les agents et par les élus. Donc moi, jusqu'à présent, j'ai exclusivement mis des classes d'entretien sous forme de 3 classes. Donc ça, c'est l'exemple que je vais vous prendre. Établir un petit peu un cahier des charges en fonction de ces 3 classes. Donc la classe 1, on part sur un entretien plus intensif avec certaines opérations, donc du type une taille régulière sur chaque flanc pour tout ce qui concerne les haies. Donc là, ça va vraiment être des haies dites architecturées, on peut même partir sur du taupière. Voilà, là c'est vraiment en classe 1, on va essayer de mettre en avant le jardinier et son savoir-faire. Ensuite, le ramassage des déchets, ça va être quelque chose qui va concerner toutes les classes. On va toujours être, entre guillemets, en train d'observer l'évolution des déchets sur site. On ne va pas laisser proliférer des papiers ou des détritus. Donc voici à titre d'exemple un petit peu quels éléments on peut classer en classe 1. Donc pour le fleurissement, vous avez en haut à gauche, par exemple, la création d'un pêcheur avec son poisson. Donc ça, c'est très intéressant parce que c'était à côté d'une zone d'un fleuve, pardon. Donc là, c'était le Rhin, en Alsace notamment. Donc ils avaient un beau massif fleuri, très entretenu, avec une fréquentation très importante. Voilà, là c'était notamment en face d'un pont transfrontalier qui reliait l'Allemagne à la France. Ensuite, vous avez d'autres exemples, hein, comme la haie de buis sur un rond-point, très, très architecturé. Donc là, ça peut être aussi le moyen de mettre en avant votre commune, l'espace un peu vitrine. Et en bas à droite, vous avez également l'exemple de jardinière. Donc un petit conseil par rapport au choix des jardinières et à leur implantation, c'est favoriser les effets de masse aux effets homogènes répartis tous les 7 mètres par exemple. Au niveau visuel, quand on passe pour un automobiliste, c'est beaucoup plus impactant d'avoir un effet de masse. On s'attarde plus sur l'effet de masse justement créé par ces jardinières qu'une façon homogène de répartir les jardinières. Puis c'est plus égayant aussi pour une commune de répartir sous cette forme. Donc il y a aussi tout ce qui est terrain de foot pour la pratique du sport notamment. Donc en général, on préconise une tonte à 4 ou 5 cm. L'espace doit être irréprochable. On retrouve des éléments aussi devant la mairie avec une taille des arbres et arbustes adaptés. L'utilisation de paillage, bien entendu, peut être à utiliser pour ce type d'espace. Donc voici des types de lieux qui pouvaient rentrer en classe 1. Donc en classe 2, vous avez des espaces dits entretien intermédiaire, où là on va essayer d'avoir un fleurissement plus basé sur des vivaces, type arbustif, rosier ou plantation de bulbes. Donc là le but c'est d'avoir un entretien un peu moins fréquent et avec une végétation différente et adaptée à notre climat et à notre sol. Donc au niveau des haies, on part sur une taille régulière mais moins architecturée qu'auparavant. Donc les tailles là ça sera plutôt une fois à l'année. Au niveau des gazons, on partira sur une tonte légèrement plus haute. Donc vous avez par exemple des calendriers d'entretien que l'on peut établir dans des plans de gestion différenciés. Donc là, c'est pour vous un bon indicateur et ça vous permet d'avoir un suivi tout au long de votre année de travail. Donc vous avez par exemple dans le tableau d'entretien, là, il était préconisé environ une petite dizaine de tontes tout au long de l'année. Donc voici d'autres exemples qui peuvent être classés en classe 2. Donc notamment Néoul, quelques espaces qu'on avait pris lors de la réalisation de notre plan de désherbage. Ensuite, vous avez d'autres espaces. Là, vous pouvez remarquer notamment la présence de prairies fleuries, donc qui peuvent s'inscrire dans une alternative au fleurissement plus traditionnel que l'on connaît à l'heure d'aujourd'hui. Donc là, vous avez l'exemple de Saint-Rémy-de-Provence, qui avait mis une prairie fleurie sur une surface d'environ 2000 m². Et j'ai trouvé l'initiative plutôt intéressante. Et on a bien vu que la démarche était volontaire en mettant à place une tonte régulière dite de propreté le long de la piste cyclable. pour bien montrer que la démarche est volontaire. On peut également constater au pied des arbres que la prairie fleurie est conservée. Donc ça, ça limite aussi l'impact de la tondeuse que peut avoir, qu'elle peut avoir sur les pieds d'arbres. On utilise souvent une débroussailleuse ou la tondeuse qui vient buter contre l'arbre. Et forcément, à long terme, il y a aussi un impact sur la santé de l'arbre. Et donc, pourquoi pas investir dans des nichoirs où les abeilles puissent venir se loger. Donc, c'est aussi une façon d'accueillir une faune plus diversifiée avec ce type d'espace. Vous avez également l'exemple de Grenoble qui met en place une tonte différenciée. Donc là, entre guillemets, ils ne sont pas embêtés. Ils réalisent un débroussaillage dans le talus, donc l'endroit le plus difficile à entretenir, et une tonte régulière sur le lieu de passage le plus fréquenté, en plein centre du site. Donc sachant qu'il y a beaucoup de personnes qui se mettent le midi pour pique-niquer au centre de cette prairie. Donc voici l'exemple d'une autre prairie fleurie qui peut être implantée. Donc là, on se situait en bas d'une université à Grenoble, toujours. Donc voilà, c'était pour montrer un petit peu quel peut être l'impact visuel d'une prairie fleurie sur un espace. Et là, oui, ils étaient réalisés sans arrosage. Savoir que ça, c'est quand même une photomontage.
Ah oui, je vais dire, mais c'est du Photoshop, ça.
Ouais, voilà, c'était vraiment pour montrer avant et après l'évolution. Donc les élèves avaient tendance justement à couper l'espace vert. Et avec cette prairie fleurie, ils ont quand même barricadé pendant un mois pour que la prairie se développe. Et quand elle est arrivée à terme, là, le site n'était plus coupé ou traversé comme ça pouvait être le cas précédemment. Donc voilà, toujours dans le but de favoriser aussi une faune plus diversifiée. Ouais, c'est une classe. Donc la classe 3, on s'embarque sur un entretien plus naturel. Avec un entretien que l'on qualifie de réduit, on part sur des haies en taille libre. Donc là, on va utiliser uniquement des sécateurs. L'astrate herbacée sera uniquement fauchée et on n'utilisera pas de fertilisation et d'arrosage. Donc voici des exemples. Donc là, on va accéder à notre site de détente par l'intermédiaire d'une zone qui est tondue, mais tout le reste sera fauché une à deux fois dans l'année. Donc je pense que pour chez vous, il faut mieux partir sur deux fois étant donné les risques de sécheresse et donc les risques d'incendie durant l'été. Mais ça peut être une proposition intéressante. La diversité de la faune ne peut être que meilleure. Ensuite, les difficultés d'entretien qu'on peut rencontrer dans des talus, où une fauche est plus intéressante qu'une tonte régulière. Et ensuite, bien entendu, le long de cours d'eau ou de lacs, où l'ambiance est très naturelle, donc adapter l'entretien en fonction de cette ambiance. Donc voici des exemples un petit peu de réalisation avant et après. Donc notamment sur la gauche, on était basé sur des haies strictes et monospécifiques qui étaient relativement chétives et qui n'apportaient pas énormément au site. Et notamment en bas à droite sur la photo, la réalisation des nouvelles plantations à côté de la rivière, beaucoup plus libre et donc adaptée un petit peu au milieu et à la classification du site. La gestion différenciée prend en compte aussi tout ce qui est notion de pied d'arbre. C'est quelque chose souvent d'oublié, mais qui est parfois rendu inesthétique par manque d'entretien. Donc ça peut être l'occasion d'adapter différentes idées. Donc il faut éviter tout ce qui est ternu et surface imperméable venant au pied d'un arbre. Donc les surfaces imperméables limitant justement l'infiltration de l'eau, toutes les conséquences qui s'ensuivent. On sait qu'un arbre en milieu urbain est soumis à d'énormes contraintes. Donc autant éviter que possible l'utilisation de surfaces imperméables et favoriser l'infiltration, comme par exemple les paillages organiques en pied d'arbre limitant la poussée des adventices, ou alors en mettant une végétalisation par l'intermédiaire de plantes vivaces en pied d'arbre. Donc ça peut être l'occasion également de jouer sur ces pieds d'arbre et de rendre plus joyeux l'espace. Vous avez également en bas à gauche des grilles et tutorages qui peuvent être mis en place. Donc là c'est un cas très particulier et très intéressant parce que le tutorage, en fait, si vous voulez, là ne rentre pas dans le sol et donc n'abîme pas le système racinaire de l'arbre. Et au niveau des larnières d'accrochage, donc on est avec la matière caoutchoutée, donc l'arbre a une certaine flexion sans être forcément abîmé. Et de plus, au niveau du système des chaudures, donc je pense que vous devez connaître les problèmes causés par le soleil sur les arbres qui peuvent les nervurer. Donc là, on peut mettre en place un système de bambou. Donc ça limite tout ce qui est ensoleillement trop important sur les pieds d'arbre notamment. Donc voici au niveau de l'aménagement, parce que l'entretien forcément fait suite à une conception qui peut être erronée ou parfois réussite. Donc là vous avez des exemples, en bas à droite notamment des idées plutôt intéressantes pour le passage des balayeuses. Donc là on évite tout ce qui est recoins, joints, favorisant la levée des adventices. En haut à droite à cabane notamment, Donc là, ils ont créé un espace avec une noue végétalisée. Donc il faut savoir que toute la surface autour était imperméable et donc les eaux de ruissellement vont automatiquement dans cette noue. Donc c'est plutôt une idée intéressante et à développer au sein de certaines communes. Et par contre, éviter tout ce qui est utilisation de stabilisés à côté de canalisation d'eau. Voilà, il y a le risque de transfert et de ruissellement du stabilisé directement dans le réseau d'eau potable, dans le réseau. Donc voici un petit peu le bilan de cette classification. On atterrit sur une cartographie toujours assez très intéressante et très complète, vous permettant de visualiser l'entretien des espaces. Donc vous avez notamment des entretiens qui restent en classe 1, donc terrain de football, donc que j'ai zoomé un petit peu sur les cercles concentriques. Là. Donc ça, souvent, c'est quelque chose qui restera un entretien intensif pour la pratique du sport. Si vous voulez, là, c'était l'exemple d'un parc municipal. Donc là, on est parti sur une gestion très intensive dans le centre. Donc il y avait notamment une mosaïculture. Et on est parti sur une gestion beaucoup plus extensive en périphérie. Donc là, c'était une zone beaucoup plus boisée. On est parti donc sur une fauche une fois à l'année. Donc les agents ont tout de suite adhéré au projet. Et quelque part, ils envisageaient déjà de mettre ça en place de leur propre ressort. Et enfin, on retrouve des entretiens beaucoup plus naturels, en périphérie de la commune généralement. Là, vous avez l'espace dans un espace boisé, il s'agissait d'un calvaire où un débroussaillage annuel est mis en place. Donc voilà, ça reprend un petit peu ce que je vous ai dit auparavant, établir un calendrier d'entretien, un cahier des charges précis. Et donc on réalise un suivi un an après la validation du plan de gestion différenciée, toujours dans le même but que le plan de désherbage, pour voir si la gestion a pu être mise en place, voir les secteurs qui ont posé problème, et voir les améliorations possibles. Bien entendu, pour accompagner cette démarche, une formation des agents peut être indispensable pour essayer de favoriser l'acceptation de cette végétation en milieu urbain. Et ça permet aux agents notamment d'avoir une idée plus précise de la faune et de la flore en milieu urbain, d'adapter l'entretien en fonction de l'espace. C'est vraiment des formations qui ont pour but de former les agents à mieux entretenir leur espace en intégrant tous les paramètres que je vous ai montrés auparavant. Et donc la communication, hein, on en a parlé tout au long de la journée, c'est vraiment l'essentiel pour faire ressortir ce projet. Donc vous avez quelques exemples ici, donc notamment sur Strasbourg en haut à gauche ou encore à Rennes, et des exemples un peu plus locaux, notamment à Vaison-la-Romaine, Fort-Calquier ou encore la ville de Marseille qui s'est engagée dans la réduction des phytos en espace vert. Donc voilà, pour finir un petit peu, on peut aussi communiquer directement sur le terrain, par l'intermédiaire de panneaux assez simplistes, format A3, permettant de communiquer directement auprès du public. Voilà. Merci.
Merci à toi.
Est-ce qu'on peut avoir une idée du coût, une fourchette de prix, disons, entre un plan de désherbage, un plan de gestion différenciée, un plan de superficie d'une commune ?
Donner des prix.
Ouais, combien ça coûte pour une commune de faire
Ça dépend de la superficie des espaces verts, où c'est qu'ils en sont dans leur démarche.
Ouais.
Ah, c'est vraiment difficile
mais
à chiffrer comme
ça.
On
parle de quelques milliers d'euros, quelques dizaines de milliers d'euros. C'est
variable sur les communes. Ouais. On peut dire qu'au-delà de 15 000 habitants, avec une surface d'espace vert d'environ 20-25 hectares, on part sur des seuils au-dessus de 15 000 euros.
D'où l'intérêt quand même de se faire subventionner.
D'où l'intérêt, voilà. Je ne voulais pas signaler, mais ces plans de désherbage et plans de gestion sont subventionnés à 50% par l'agence de l'eau et jusqu'à 80% dans les bassins versants prioritaires. Voilà.
Et comment est-ce qu'on peut savoir si on est dans un bassin versant prioritaire ou avec l'agence de l'eau?
Oui, qui nous dit directement. Pour l'instant, je n'ai pas réalisé de plan en région PACA, mais je viens de la région Alsace. J'ai pu faire 2-3 plans de gestion différenciée, notamment sur des communes. Et donc voilà, les notions de coût, je les tiens un peu par rapport à ça notamment. On part sur le même principe ici en région PACA.
Et vis-à-vis de l'enjeu sur les lagunes, je me demande si ces communes littorales ne sont pas en prioritaire.
A priori non, mais ce que je disais tout à l'heure dans la partie au repas,
ouais.
Il faut se renseigner un peu, enfin on va dire presque faire un peu de lobbying auprès de l'agence de l'eau pour faire valoir sur le caractère, on va dire, sensible. Plus utiliser le mot sensible que prioritaire, parce que prioritaire en fait c'est relatif au captage en eau potable, où il y a des captages qui ont été mi-prioritaire, un plan d'action prioritaire, et donc sur lesquels, en fait, sur autour des aires d'alimentation de ces captages, il y a des actions à mettre en avant. Là, on n'est pas sur ce cas-là, on n'est pas sur un enjeu eau potable, donc on n'est pas sur une dimension de priorisation telle que c'était défini.
D'accord.
Mais par contre, le côté sensibilité des milieux, je pense qu'il est à faire valoir.
Ouais, plus que sur des zones prioritaires.
D'accord.
Et bien Clément, dans la continuité alors.
Mais c'est bien, on va gagner du temps avec moi.
Non mais c'est très bien.
Je voulais compléter, par exemple, à titre d'information, la commune d'Apt s'est lancée dans un plan de désherbage. La commune d'Apt, c'est une commune en plein cœur du Luberon, c'est 12 000 habitants. Ils ont fait appel donc, à un prestataire. Le plan de désherbage a coûté 18 000 euros. Donc globalement, sur des communes de 10 000 habitants, il faut compter voilà, entre 15 000 et 20 000 euros.
Oui,
après, pour des plus petites communes, les plans de désherbage peuvent aller à moins de 10 000 euros. Mais voilà, c'est adapté, comme la besoin, c'est vraiment adapté à la taille de la commune et à la surface des espaces verts. À la surface des espaces verts. Des espaces.
Quel type de prestataire vous avez mis
pour acheter
Je le demanderai après.
C'est pour ça que je suis là, je vous ai présenté en fait, parce que nous, quand vous présentez les
communes,
pour un plan de désherbage, et plan de gestion différenciée, c'est quoi
un plan de gestion différenciée,
je sais
pas
de.
C'est le vin,
vous
voulez.
Bah, nous, du coup, on connais ce qui a fait des plans de gestion différenciée, on fait un interne.
Ils
ont pas fait appel à une presse.
D'accord. Bon, vous en faites pas, je vais pas être long.
Non, mais c'est très important quand même.
Non, c'est très important quand même, mais du coup, j'ai prévu de vous présenter plein de trucs un peu techniques, mais au final, on a déjà abordé quasiment tout pendant la journée, donc je vais surtout essayer de vous faire part de mon expérience. Donc, je suis Clément Baudot. Je travaille aujourd'hui à la Fredon Languedoc-Roussillon. En tant qu'animateur et coordinateur du plan éco-phyto sur les zones non agricoles en région Languedoc-Roussillon. Et auparavant, il y a encore, on va dire 15 jours,
et oui.
15 jours, 3 semaines, j'étais en poste au syndicat mixte des étangs littoraux dans l'Hérault, en tant que chargé de mission de qualité de l'eau, et notamment en charge de ce programme Vert Demain, que je vais essayer de vous expliquer un petit peu. Pour faire simple sur la présentation générale, il s'agit vraiment d'un programme où on a essayé d'associer préservation des milieux lagunaires et implication des collectivités à travers la gestion des espaces publics et donc la réduction des pesticides, l'amélioration des pratiques horticoles. Donc on est clairement dans tout ce qu'on vient de raconter aujourd'hui. Et donc aussi, vous préciser, parce que c'est quand même important, que ce programme Vert Demain a été lauréat du prix du Pôle Orée Lagune l'an dernier, donc qui a été remis ici en Arles par la ministre de l'Écologie. Donc le syndicat mixte des étangs littoraux, rapidement, donc c'est un territoire lagunaire qui est coincé entre deux grosses agglomérations, Montpellier et Sète. Avec pas mal, donc cette commune riveraine des étangs palavasiens et une pression foncière que, on peut dire pression urbaine que vous imaginez assez importante, des zones urbaines qui sont clairement au pied de nos lagunes, donc on va dire que l'adéquation était assez simple en fait, se dire voilà, si on travaille sur la qualité de l'eau, les agriculteurs c'est une chose, mais nos communes c'est surtout autre chose quoi. Les principes de ruissellement, on passe, on en a déjà parlé. Donc le programme Vert Demain, comment ça s'est créé? Avant de vous parler des objectifs, en fait c'est né d'un appel à projet en 2008 de l'agence de l'eau et de la région Languedoc-Roussillon qui a mis sur la table un appel à projet sur la gestion durable de la ressource en eau. Ce à quoi nous aussi on a répondu à cet appel à projet, proposant justement de mettre en œuvre cette adéquation espace naturel, espace urbain à travers ce qu'on imaginait être des plans de désherbage. Je vais vous expliquer que c'était pas tout à fait, qu'on allait un peu plus loin que ça. Et donc, créer ce programme Vert Demain qui a pu tout simplement créer un poste. Mais comme on l'expliquait tout à l'heure sur la région PACA, il y a une possibilité même de créer des postes au niveau intercommunal. Donc, profitez-en parce que de mon point de vue, c'est un bon gage de réussite. Et donc avec pour objectif d'abandonner ou d'améliorer l'utilisation des pesticides et des engrais, donc pas forcément que les pesticides, aussi tout ce qui est engrais utilisé en milieu urbain, améliorer les techniques de désherbage parce que c'est le principal qu'on utilise, favoriser l'utilisation d'espèces méditerranéennes qui sont adaptées. Donc là, le postulat de départ, c'est clairement qu'une plante qui est adaptée à son climat et qui est locale n'a pas de maladie et ne pose pas de problème par ailleurs, et en plus moins d'eau, etc. Donc en fait, on aurait beaucoup de problèmes avec ces espèces. Et puis comme on est aussi gestionnaire d'espaces naturels, on s'est dit qu'on allait en profiter pour sensibiliser nos communes et lutter contre l'implantation d'espèces envahissantes. Voilà. Donc on a pris tout ça, on a secoué très fort. Et donc, on a mis en place donc ce travail sur trois axes, en fait, auprès des services communaux, donc espaces verts, propriété urbaine, le service des sports, les services des ports, dans certains cas, tous ceux qui peuvent de près ou de loin avoir accès à un pulvé. Et donc pour mettre en place ce qu'on a appelé au final le plan d'amélioration des pratiques phytosanitaires et horticoles, localement appelé PAPPH, et qui n'est ni plus ni moins que un mariage sympa entre le plan de désherbage et le plan de gestion différenciée, pour faire simple. Voilà, on a pris les deux, on les a mis ensemble, on s'est dit qu'on avait besoin de tout, donc on a tout pris. Un axe de formation des agents et, comme on vient de le souligner, axe de sensibilisation de communication qui est essentiel. Donc, je vous passe sur la méthodologie. Ça, on vient de le voir. Voilà. Donc tout ça. En fait, c'est pas. J'ai dit qu'on gagnerait du temps.
Non, mais c'est vrai. Merci d'éviter les.
Donc concrètement, eh bien, d'une part, mon rôle en tant que chargé de mission qui a été de l'eau et puis en charge de ce programme a été d'une part de mettre en place ces plans d'action auprès de chacune des communes. Donc pour la plupart en interne, ça veut dire que du coup ça s'est calé entre le syndicat de gestion, donc le CIEL, et la commune à travers des conventions de gestion, enfin des conventions de partenariat. Et pour deux communes, c'est passé par des missions de prestation de services, notamment pour des questions d'échelle un peu compliquées ou pour être honnête, des notions politiques où on dit que c'était plus simple de gérer ça avec un prestataire entre nous. Mais concrètement, voilà, le boulot, c'était d'aller motiver les agents sur le terrain, les élus sur le terrain, et puis avoir ce côté relationnel fort avec tout ce petit monde, et puis aussi ce côté animation et durée dans le temps. C'est pour ça que je dis que c'est important d'avoir... Enfin, je prêche un peu sur ce que j'ai fait, c'est important ce côté animation territoriale, parce que ça vous permet d'avoir du suivi dans la longueur, et puis avoir un référent local, et puis progresser, après que ce soit une prestation ou pas, mais effectivement d'avoir ce petit pôle de compétences pas très loin sous la main, c'est intéressant.
Il y a du temps. Quand tu dis que tu as mis en place ça en interne, c'est-à-dire que tu as travaillé sur le PAPPH, tu as travaillé sur la formation des agents et sur le volet sensibilisation et communication.
Oui.
Sur les trois axes.
Oui.
En interne.
Oui.
Toi tout seul.
Moi tout seul, non.
Sur
cette commune.
Cinq communes, oui. Les deux autres, c'est en prestat.
Voilà.
Sur
alors.
Cinq communes.
Concrètement, je vais vous expliquer comment ça s'est mis en place. Sur les PAPPH, concrètement, donc effectivement, sur, Pérol, Vic-la-Gardiole, Frontignan, Mireval, Palavas-les-Flots, les a gérés en interne. Donc, c'est, travailler sur le terrain, exactement ce que tu viens de présenter. On repère, on va voir tout ce qui est toutes les pratiques actuelles, on fait le tour, on référence tout avec les agents. On essaie de caler tout le monde autour de la table à se dire on a ça comme état des lieux, on a ça comme risque par rapport à nos milieux lagunaires et par rapport à la gestion de l'eau. Nous, comme on a mixé un petit peu les deux, on associait en plus une couche de gestion différenciée en disant maintenant on prend la carte de la commune avec rien dessus et on dit à quel endroit pour vous c'est hypersensible et s'il y a un brin d'herbe, vous n'êtes pas élu au mandat suivant. Et à quel endroit on peut dire, là, s'il y a trois petites pâquerettes, au contraire, c'est sympa, ça nous intéresse. Bon, concrètement, la discussion, c'était ça. Et à partir de là, donc à partir du risque et de la sensibilité, on met en place les préconisations qu'on proposait avec les communes. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, on va y aller, c'est la partie formation. Donc là, formation des agents, comme on est un petit syndicat, quand même, cette commune, c'est pas non plus énorme. Ce qu'on a souhaité mettre en place, c'est des formations commune à tous les agents de nos 7 communes. Alors, on les a mis en place depuis le début de Verdemain, donc depuis à partir de 2009, en fait, on a commencé à mettre en place des formations avec les communes qui étaient déjà engagées dans le programme et celles qui ne l'étaient pas encore. On s'est dit, c'est aussi ça un moyen de mettre la puce à l'oreille. Et donc, à chaque fois, on convient tous les agents des 7 communes. C'est aussi un moyen de ne pas répéter plein de fois la même chose. C'est aussi un intérêt de la dimension territoriale. Donc avec des formations sur les risques individuels environnementaux, sur les techniques alternatives, plus récemment sur tout ce qui est conception, on va dire, des espaces verts et plus généralement de l'espace public qui permet de s'affranchir des pesticides après dans la gestion. Donc l'aspect vraiment préventif, que ce soit autant espace vert que voirie, tout simplement. Formation aussi sur comment communiquer, comment répondre aux gens qui ne sont pas contents qu'on croise dans la rue parce qu'ils ont vu trop d'herbe dans la journée, que ce soit des élus ou des habitants. Et puis formation aussi pour ce qu'on appelait décideurs, donc à savoir les élus et les directeurs de service, pour que tout le monde dans la commune ait le même discours et soit bien convaincu du bien fondé de l'ensemble. Donc voilà pour l'aspect formation. Et pour l'aspect communication grand public, donc on a édité des petits livrets d'informations, à peu près pareil que ce qu'on vous a présenté ce matin, donc à savoir petits livrets, trucs et astuces, comment se passer des pesticides dans son jardin. On a aussi édité la même expo que va vous mettre à dispo l'Arcopaca. Que j'ai pas pris ici avec moi, mais je crois que je l'ai après sur une diapo. Et après, pour chaque commune qui s'engage, en fait, ce qu'on met en place, c'est une journée d'information et de sensibilisation qu'on appelle Demain mon jardin sans pesticides. Ça rappelle vers demain, et puis ça permet de faire venir tous les jardiniers amateurs. Et une fois que tout le monde est là, ça permet surtout de communiquer sur ce qui va changer dans la commune et expliquer le travail des agents, ce que c'est aujourd'hui, ce que ça sera demain et comment ça va évoluer. Donc c'est aussi une vitrine en fait sur la gestion de la commune. Et vraiment relais sur le terrain, c'est en lien avec l'aspect formation où les agents ils sont aussi formés pour communiquer auprès de la population. Et puis voilà, là c'est les différents outils qu'on a pu mettre en place, donc à savoir un guide méthodologique. Je vous ai mis un exemplaire en consultation sur la table, en consultation parce que j'en ai qu'un. Non, c'est celui qui est relié à côté. Donc en fait, qui reprend un peu la méthode du PAPPH qu'on a élaboré. Après, je vous dis pas qu'il faut absolument prendre ça. Ce qu'on vient de voir avec le plan de désherbage, le plan de gestion différencié, c'est honnêtement c'est la même chose. Donc allez-y. un guide technique. Donc là, qui est le classeur qui est à côté. En fait, ce guide technique qui reprend l'ensemble des bonnes pratiques pour les services municipaux. Ça va depuis tous les systèmes de désherbage alternatif qu'on peut trouver. Ça parle de la réglementation. Il y a ça de réglementation, mais c'est juste pour vous faire comprendre que le mieux, c'est de ne plus utiliser de pesticides. Ça prend en compte aussi quelles plantes il faut choisir dans nos espaces verts, quelles plantes il ne faut pas choisir dans nos espaces verts, on parlait des plantes envahissantes, et puis tout ce que je disais qu'on a vu en formation aussi, tout ce qui est conception de l'espace public par ailleurs. Et ce guide est téléchargeable sur le site internet du CIEL, donc vous pouvez aller le consulter allègrement et même l'enregistrer sur votre ordi ou l'imprimer. Le guide pratique, donc là c'est le petit livret que je viens de vous montrer. Merci. Et l'exposition, donc qui est la même que on vous a montré ce matin sur l'Arcopaca, qu'on a remis un peu en forme et puis on a essayé de parler de la lagune un petit peu, mais sinon c'est exactement la même. Voilà.
Merci Clément.
Oui, je reste là.
Non, mais c'est...
Du coup, ce que je vous propose, c'est de voir plus précisément un cas concret à travers la commune de Pérols, qui, en gros, a été notre commune pilote. Notre commune pilote qui avait suivi les plâtres. En fait, c'est grâce à eux qu'on a pondu cette histoire de PAPPH. En fait,
donc voilà.
Vas-y. Charge.
Et non, c'est avec eux qu'on a construit en fait la méthode, sachant que voilà, en 2008, quand on s'est lancé là-dedans, on a cherché une commune motivée pour se tester nous et puis essayer de construire ce qu'on pourrait proposer après aux autres communes. Donc voilà. Donc voilà, Pérol. Je te laisse la main.
Vas-y. Je vais rester comme ça.
Vas-y.
Donc Didier, voilà.
Je dis, la présentation, je l'ai faite tout à l'heure. Donc, Didier Bory, je suis initié à la commune de Pérol. Et la commune de Pérol, je ne sais pas si tu peux passer peut-être. Voilà. C'est une commune qui se trouve au sud de Montpellier, 9000 habitants. Et qui est une particularité, c'est qu'elle a deux bassins versants qui donnent dans deux sites remarquables qui sont Ramsar et Natura 2000, l'étang de l'Or à droite et l'étang du Méjean qui dépend du syndicat mixte des étangs littoraux, les étangs palavasiens. Et au sud, vous avez Carnon, je ne sais pas si vous connaissez.
Vous avez des moustiques ?
Pardon ?
Oui, oui.
Oui, oui.
Bien sûr.
Ça va avec les lacs.
Mais les moustiques sont tous traités au BTI aujourd'hui.
Voilà. Donc on a recensé donc les zones à risque d'Ampérol. Donc c'est très urbanisé, donc fortement à risque au niveau ruissellement sur les deux bassins versants. Même si un des bassins versants est un peu plus important que l'autre.
Ah pardon.
Voilà, pardon. Et
Oui, mais je reviens. Attends, c'est pas
coupé là.
Attends, il s'est mis en pause.
Et on avait déjà recensé à l'époque les zones sensibles où il y avait des aires de jeu. Donc vous avez en vert aussi les aires.
Alors c'est assuré, ça doit
pas. Voilà, sensible. Vous avez le parcours de santé n'y est pas, mais il est en rouge totalement au sud. Voilà. Il fait à peu près 3 hectares. Donc. Pérol, ce sont des espaces verts qui étaient peu valorisés dans les années 70. C'était les lotisseurs, au fur et à mesure qui aménageaient le lotissement au pourcentage. Ils devaient rendre une zone aménagée. Donc c'était très peu travaillé. C'était des grandes zones plantées souvent de pins ou de lauriers, des choses comme ça. Très peu structurées. Et surtout gourmand en personnel, puisqu'il y a souvent des plates-bandes de romarins, des choses comme ça, sur plusieurs centaines de mètres carrés. Donc dans les années 80, c'était un peu plus structuré et la commune en interne déjà avait arrêté le désherbage de certains points. Quand je suis arrivé, il y avait des herbages chimiques de fossés. Je les ai supprimés et je les ai remplacés par des fauches. Donc ça a été fait dès les années 80. Dans les années 90, comme on perdait petit à petit du personnel, donc on a commencé à faire des espaces verts qui étaient un peu plus structurés et qui demandaient beaucoup moins d'entretien. Donc on utilisait des paillages déjà. Pour réduire les nombres de mètres carrés, donc on utilisait les paillages et les contrastes de couleurs pour donner un petit peu égayer un peu ces espaces. Voilà. Donc vous en avez quelques-uns qui sont là. Ensuite, il y a eu un changement de municipalité, un renforcement du service espace vert, avec une demande un peu plus précise de qualité pour certains espaces. Donc on a fait de la gestion différenciée sans l'appeler comme ça à l'époque, mais ça en était. On a continué à réduire nos espaces verts en tenant compte de la réduction du temps de travail et en limitant l'entretien, et la réduction des consommations d'eau aussi, puisque nous on est sur eau potable et non pas eau brute, et donc on a cette contrainte importante. Et on a en même temps amélioré nos techniques de fleurissement en utilisant notamment la gamme de Philippi, j'en ai entendu parler tout à l'heure, au départ, puis après il y a d'autres pépinières qui ont repris un petit peu, et on a utilisé le torrent et toutes ces pépinières qui ont fait un travail de fond en partant du travail initial de Philippi. Voilà. Ensuite, ce qui a forcé la commune à passer vraiment à la réduction des pesticides, c'est deux factures, c'est ça sur mes factures d'eau. Et au dos, vous avez la composition des traces qui ont été trouvées, de glyphosate notamment, en eau potable et de l'aminotriazole. Donc on parlait tout à l'heure de rivières, mais on en trouve aussi sur la ressource d'eau potable. Donc, c'est là où ça... On parlait de sécurité des employés. On voit que quand on a deux tournées, donc les pratiques sont plus tous les mêmes que ce qui devrait être. Voilà. Donc on a eu un stagiaire qui a été par convention mis à disposition de la commune en 2008 et qui a tourné avec des équipes pendant un certain temps. Et qui est rentré dans les équipes un peu plus ils les accompagnaient sur le terrain, ils discutaient, ils voyaient un peu leurs pratiques. Et puis petit à petit, ils ont commencé à dériver. C'est pour ça qu'on voit le short, les baskets, le rinçage des produits proches d'un point d'eau. Voilà, toutes ces, comment dire, ces mauvaises utilisations des produits ou du matériel de protection sont apparues. Voilà. Donc voilà, ça le dénonce. Donc on part de... Le stagiaire a aussi vu qu'il y avait une organisation des équipes à reprendre. Il fallait continuer à mettre en œuvre des techniques alternatives au désherbage, travailler un peu plus la lutte biologique, former les agents. Ensuite, continuer dans l'amélioration des espaces verts, comme on l'avait fait, et passer totalement à la fertilisation organique, puisque seul le stade était en fertilisation minérale. Donc le constat initial est passé de totalement rouge à pratiquement totalement vert. Il reste un point rouge qui est le stade où on utilise encore un désherbant sélectif qui est un désherbant pour les graminées annuelles qui sont le digitaire, panique, c'est terre digitaire, et qui est utilisé à 0,6 litres hectare. Voilà.
Et puis comme c'est sur la commune de Latte, on peut dire que Pérol est en 0,8.
Ah, donc voilà, Pérol s'arrête exactement à droite. Voilà. C'est la réalité, nos terrains ne sont pas sur notre commune, donc Pérol est à 0,8. Voilà. Donc juste pour info, quand même, on est passé en 6 mois à 50% et à 0% au bout de la fin de l'année. Quoi. On a fini nos stocks et on a jamais recommandé après. Voilà. Donc depuis, on a passé en fertilisation organique au stade. On a mis en place des traitements biologiques, notamment bon, la chenille processionnaire, on est resté en biologique. Mais seulement, on a mis des pièges à phéromones dans les arbres. Le désherbage se fait donc de façon alternative, débroussailleuse, binage, sarclage. On utilise aussi des brosses de voirie, on le voit sur la balayeuse, un peu différentes, qui sont un peu plus rigides, qui permettent de couper l'herbe sur le bord des bordures. Et on s'est engagé toujours dans la création d'espaces verts durables, on va dire, entre guillemets. On peut appeler ça comme ça. Mm-hmm. Et on est toujours en réorganisation des équipes sur le terrain, puisqu'on a, depuis 4 ans, on
tous bouge. Tous les 3 mois.
Voilà. On bouge parce qu'on a une grosse restructuration de la commune avec un changement de DGS. Mais bon, ça va se stabiliser, à mon avis, d'ici... voilà, dans les 6 mois qui arrivent, on va dire. On avait des équipes sur le constat initial, on avait des équipes polyvalentes qui tournaient par secteur géographique et il n'y a aucun agent qui est formé à espace vert dans la commune. Donc la formation, elle s'est continuée soit par le biais du ciel, soit par le CNFPT. Dans le cadre des rencontres de fin d'année au niveau de l'évaluation, moi j'avais noté quelques stages qui pouvaient les aider dans leur quotidien, donc je les ai orientés vers ces stages. Ensuite, on est passé entre-temps, parce que là, c'est un cours encore de changer, mais on a fait 2 secteurs, un secteur nord et un secteur sud. On a mis en place des plannings hebdomadaires beaucoup plus serrés. Et depuis peu, donc depuis un an, donc, on a fait appel des prestataires pour des micro-marchés. Alors, il y a des lots géographiques qui ont été attribués avec l'article 15, je ne sais pas si vous connaissez, pour les entreprises adaptées. Et qui sont, on les a considérés comme des chantiers durables. Ce sont les cimetières, le parcours de santé, les trottoirs, les arbres d'alignement. Où on a mis en place un périmètre de chantier durable, puisqu'on a, essayé de voir où on pourrait trouver de l'économie. Donc on s'est aperçu qu'on payait beaucoup de taxes pour le non-emploi de personnes handicapées. Donc ce que l'on a fait, c'est que on a donné du travail donc, à des ESAT, par le biais de marché, et au lieu de payer de la taxe. Donc sur la première année, avec un travail de l'ARH et l'utilisation de... On a récupéré 10 000 euros. En sachant qu'un cimetière, j'ai noté pour cette année, c'est 3 720 euros de consommer avec l'atelier réservé, voilà, pour l'entretien. Ça comprend donc un passage hebdomadaire tous les vendredis et un passage curatif... en fonction de l'état des cimetières, suite aux visites de contrôle. Juste pour info, 2012, c'est une année très calme. L'année 2011, c'était plutôt 7 000 euros à la place. Si on avait fait l'équivalent, c'était le nombre de passages était plus du double. Voilà. Donc on a, il faut toujours penser qu'on a des années qui sont très difficiles à passer, des années beaucoup plus calmes. Donc ben là, on a les lots réservés qui sont ce que je disais, les trois lots qui ont été ouverts aux entreprises et qui sont plus techniques, on va dire, ce sont les débroussaillages, les élagages et la lutte biologique.
Juste, on a déjà tout dit.
On a tout dit, voilà. Simplement, donc le ciel nous a permis aussi d'acquérir du matériel. On a eu une aide de 2000 euros pour acheter des broussailleuses, matériel thermique, pour faire un petit panel de matériel alternatif. En communication, on a eu une journée, donc là, je crois que c'est 2008.
Parce que c'est juste quand j'arrivais.
Ensuite, on a eu la journée de l'agence de l'eau l'an dernier. Et on est intervenu sur le pont du Gard pour les cimetières et au Simbo, dans l'autre bassin versant, pour faire part de notre témoignage. Voilà. Et le 4, je ne connais pas.
Dernier en février.
Oui. On va dire que Pérol est très demandé pour faire valoir son expérience.
Voilà, donc depuis 2008, on a arrêté les pesticides. On a obtenu la deuxième fleur en 2010. On a mis en place donc un concours de jardins de particuliers où on a intégré les catégories jardins secs et potagers. Nos jardins collectifs donc, sont sur la base de sans pesticides, donc avec un règlement intérieur très strict. Et dans ces jardins, on a mis en place donc 4 parcelles pour les centres de loisirs et les ados. Mais Clément va peut-être parler de cette partie-là.
Oui. Donc c'est toujours dans la partie communication vers demain. En fait, l'intérêt cette année, c'était de proposer à des jeunes publics, donc scolaires ou centres de loisirs, des projets d'aménagement de parcelles ou d'espaces verts sans pesticides, avec des espèces méditerranéennes adaptées, en lien avec les services techniques des communes, pour faire le lien entre les enfants et les agents. Qu'est-ce qui se passe sur la commune et comment les enfants peuvent aider aussi à la construction du cadre de vie sur la commune. Donc ça, c'est des projets qui sont lancés cette année. Ouais.
Voilà. Et les centres de loisirs vont, dans ce cadre-là, réaliser donc les nichoirs et les hôtels insectes que l'on va mettre en œuvre sur le territoire, sur des zones que l'on a, on a mis des inventaires en place. Je ne sais pas si c'est toi.
Oui, monsieur. Bon.
Ah, d'accord. Okay. Donc là, vous avez quelques aménagements, soit en cours, parce qu'on voit encore le tas de galets devant, mais où on limite beaucoup l'entretien en mettant beaucoup de mètres carrés de paillage. Voilà. Donc après, une fois que c'est développé, c'est sûr que il y a un peu plus de travail au niveau taille. Il faut apprendre, il faut changer totalement les pratiques horticoles, beaucoup de taille. Et
voilà, du coup, ces photos, c'est aussi pour vous montrer que
ça, c'est l'hiver, par contre.
Enfin, le message, c'est vraiment vous montrer qu'abandonner les pesticides, c'est pas abandonner l'entretien et le cadre de vie d'une commune. Pérol en est un bon exemple parce qu'effectivement, en arrêtant les pesticides en 2008, ils ont une deuxième fleur au concours des villes et villages fleuris en 2010. Et je vais juste apporter un petit peu on va dire de mon ressenti sur ce concours, même s'il a l'air un peu sclérosé, ville et village fleuri, on sent venir les rangées de géraniums et de bégonias à Thiers-Larigot. C'est un concours qui évolue énormément et qui prend en compte maintenant les critères de développement durable et aussi la réduction de l'utilisation des pesticides dans vos collectivités. Donc c'est aussi un argument, on va dire, de valorisation touristique de vos communes qui peuvent être, qui sont pour la plupart touristiques. Faites-le valoir si vous participez à ce concours, parce que c'est aussi important que de mettre des fleurs dans des jardinières. Quoi. Enfin, voilà, c'est vraiment un élément important.
Oui, il y a 50% de végétal et c'est 4%
de développement durable.
De cadre de vie et de développement durable. Là, c'est quelques aménagements. Donc les jardins familiaux.
Très sympa.
Ah ouais, les paillages qui se voient du ciel. Voilà.
Vous avez des questions donc suite à cette formation, parce que de toute façon vu l'heure, je pense qu'on n'aura pas le temps vraiment d'aborder la présentation de cas particuliers en PACA, mais si vous avez quand même certaines questions qui qui rejoignent ces exemples qu'on ne peut pas présenter a priori. On pourra toujours ouvrir les diapos quand même. Hein. Non, mais c'est surtout, le principal, c'est surtout les discussions, les questions pour finir. Donc suite à...
Est-ce que le désherbage à gaz, c'est ce qu'ils utilisent,
Oui.
C'est efficace.
C'est une des méthodes. Pour un faune, nous, on est à inférieur à 1200 euros à peu près par an.
Ouais.
Voilà.
Ce que dit Didier, qui est important, c'est que c'est une des méthodes. Ça veut dire qu'il ne va pas falloir se focaliser que là-dessus pour régler le problème de désherbage.
Dans les cimetières, on n'a pas pu essayer.
Ouais.
Vous pouvez contacter la clinique de Roussillon, dans le parc naturel du Luberon. Ils utilisent ça dans un cimetière. Ils sont très contents. Au niveau technique,
il faut les contacter. Il fait 6 étages.
Après, ce qui est important de dire, c'est que c'est vraiment tout ce type de matériel que vous voulez avoir. Il faut vraiment que ça soit adapté à votre territoire. Donc, il faut vraiment les essayer. Et une technique ne va pas résoudre tous vos problèmes, mais c'est bien la combinaison de plusieurs techniques. Là, on est dans le curatif, mais où on peut être aussi dans le préventif, qui va régler et qui va aller vers votre gestion des espaces de demain. Le désherbage à flamme, ça fonctionne sur certains espaces, ça fonctionne moins sur d'autres. Il y a une manière de l'utiliser. Les communes nous disaient qu'au départ, il restait trop longtemps sur la plante,
oui.
Alors que le passage, la commune de Ferrol,
c'est un choc thermique.
Voilà, le passage, il doit être très rapide et il ne doit pas rester. Donc, voilà, il y a une manière de l'utiliser, donc il faut s'adapter.
Il ne faut pas la voler, quoi.
Il faut le tester.
Non, ça sert plus en finition. Avant, il passe en binage, sarclage et après, ou débroussaillage, et puis après, les plantules, comme il disait l'exposé, c'est 3 feuilles, pas plus, 3-4 feuilles. Après, c'est trop grand.
Ouais, dégrossissant.
Parce qu'après, ça ne fait pas froid. Parce qu'on laisse la plante qui doucement va se dessécher. C'est un choc. Par contre, si vous avez un sol en gravier, je ne sais pas si. Parce qu'on a vu un matériel qui a été mis en œuvre sur Lyon. C'est un matériel avec une jarre de herse qui vibre, mais avec des éléments cylindriques, je crois que c'était.
C'est un stabnet en fait, mais adapté au gravier.
Et qui permet, en vibrant, ça décompacte le gravier et ça coupe les végétaux qui sont dans le gravier. Et c'est comme un motoculteur. Et après, je sais pas le fabricant, par contre, j'ai pas noté.
C'est pas Ramon qui fait ça.
Si, si.
On a un combat de DM, mais pas pour juste stabiliser. Ouais. Et qui se met à tenir sur le tracteur.
Parce qu'on a le comité de
piste. 81 mètres pour faire des chemins stabilisés.
Comme ça, c'est le comité de piste, on parlait.
Avec le rouge.
Je sais pas.
En fait, le principe, ils font les dents comme ça, je pense qu'ils doivent mettre tout ça.
Exactement, ouais.
Qui est comme une herse vibrante. Apparemment, ils en sont très contents, je crois. Mmh. Rabot, c'est pour le commis de piste, vous avez Videlna aussi qui en fait, au niveau des commis de piste. Nous, aux arènes, on a un communier. Ça. Le fait de passer régulièrement avec la herse, il n'y a pas d'herbe. Il y a la contre-piste, oui, mais la piste centrale. Ouais.
Toutes les voiries, vous les faites avec.
Des broussaillages, binage des ronds d'arbres.
Ou... Non, mais les trottoirs, je veux dire.
Oui, oui. Et là, c'est les ateliers protégés qui l'ont. Mais ils font tout.
C'est
hein.
Des solutions, les ateliers protégés, les ateliers d'insertion.
L'insertion, les
usages. En fait, c'est ce qui est le plus efficace.
Nous, on a créé les jardins avec un chantier d'insertion. Mmh. Et les salaires, on a payé le reliquat des salaires, les visites médicales, les EPI. Mmh. Donc, il y a plus de 90% qui sont pris en charge par l'État, le département et nous, notre agglomération.
Les cimetières, voilà. Je pense qu'on va passer les ESAT.
Et nous, on a regardé un petit peu les sources d'économie, parce que bon, c'est des choses en plus. Donc sur la première année, on est assez content, très content. Et puis il y a un phénomène, c'est que les personnes qui ont un cimetière voient du monde, et même si c'est un petit peu vert, ils diront rien, parce qu'ils savent que si c'est passé aujourd'hui, ils passent tous les vendredis, bon, ils font pas que ça, ils rangent un petit peu les arrosoirs, ils rangent. Le passage, c'est 60 euros. Ils viennent à 4 ou 5 avec un animateur. Ça, c'est eux qui. Voilà. Ensuite, le curatif, c'est 300 euros le cimetière.
Il fait combien ?
Alors en tout, on a 2 hectares et demi, mais avec une partie extension. En fait.
Et vous avez mis en place une communication et une sensibilisation pour les habitants de ce qu'on a vu, mais par exemple dans le cimetière ou dans le parcours de santé, est-ce que du coup vous avez carrément mis en place des panneaux ?
On en parlait tout à l'heure.
Non, c'est là où on n'est pas bon.
Parce qu'ils ne sont pas bons de partout encore.
Pas bons, quoi. Parce que j'ai compris le thème municipal.
Alors là, là, on est fort, mais après, sur site, on n'est pas bon.
Mais parce que par manque de temps.
Mais c'est surtout qu'on a du mal à mobiliser pour nous aider, quoi. Voilà.
Ah, d'accord. Ouais.
Parce que les parutions municipales sont plus importantes que nos communications dans les espaces.
Il faut arriver à réorienter.
Par contre, on a utilisé aussi la PEA, je ne sais pas si vous avez cette association. La PEA, c'est l'association pour la protection de l'enfance dans les espaces.
Mais ça,
c'est des pannes du juge d'application des peines. Et ce sont des jeunes qui ont fait des bêtises et qui ont des heures à rendre.
Non, mais même sur les professionnels, ils sont tous super frais.
Nous, ils sont encadrés, l'association les encadre, et je leur fais créer des petits îlots. Des îlots que vous voyez.
Un vrai travail de fait.
Ah non, mais ce n'est pas des... C'est pas des nous, c'est des journées. C'est de l'ordre de 8 heures. Ce n'est pas des gros... Et nous, on en a quelques-uns. À long terme, on en a quelques-uns. Mais la PEA, c'est mieux parce que les petits îlots qu'on voyait.
Moi, j'ai une de gars comme ça qui sont géniaux. Le gars, il s'est fait attraper chez le trou. Mais alors, le mec, super passionné, il l'a mis dans les serres, il s'était rien justifié. Il est vachement bien. Par contre, il y a un bable. Le mec, il est super intéressant. Quand on a eu, c'était.
Ah ben nous on a eu les deux, mais là on traite directement avec le chef. Mais par contre la PEA ils sont encadrés, ils viennent à la journée, ce qu'on fait on décide d'un espace vert et ils font une activité sur l'espace vert, c'est-à-dire qu'ils le prennent de A à Z, on met simplement un agent à disposition, il a le plan l'agent et il fait l'espace vert, là on a fait 2 ou 3 îlots l'année dernière. Et là quand ils partent, l'espace vert est fini, ils ont vu depuis le départ jusqu'à la fin. Ensuite, on a fait le chantier d'insertion.
Ah oui, voilà,
sur deux fois 6 mois. Ça marche très bien. Ça a moins marché le second, puisqu'ils sont tous trouvés. Ils sont partis en entreprise. Quoi. Voilà.
Je vous propose qu'on s'arrête là, comme il est tard et que tout le monde part en catimini.
Oui.
Donc, on vous enverra tous les éléments, tous les PDF qu'on transmet dans le compte rendu.
Oui.
Voilà, vous pouvez continuer à discuter, on ne vous chasse pas, hein, mais on va commencer à ranger parce que je pense qu'il y en a plusieurs qui veulent partir. Merci à tous.
De même, pour les contacts des personnes, c'est pareil. Voilà. En fait, on vous donnera un tableau avec tous vos mails, comme ça, vous pouvez toujours vous contacter entre vous aussi. Je pense que c'est une part importante. En tout cas, merci d'être venu. Voilà, j'espère que ça vous a été profitable. Et j'espère qu'on aura d'autres échanges, que ce soit téléphonique, par mail ou encore via l'ARP et la Fredon, parce que de toute façon, on a un réseau.
Je vois que vous travaillez avec.
Nouvellement formé.
Vous avez réussi à faire répondre pour au marché.
En fait, c'est ce qu'on a fait. On a fait un site sur lequel les végétaux correspondent à ce.
D'accord.
Ça n'a pas été du 100% fini.
Oui, moi j'ai tout. J'ai tout.
Même si
on n'a pas été
allé mettre en ligne.
Ça va.
Quand on a réalisé le projet.
Dès que possible,
il a regardé ce qu'on avait fait, il a dit, je vois des plaintes, des plaintes, des pavots, on ne voit plus ce